19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ramadan & Co le dimanche aussi, bienvenue dans l'incubateur à idées de Beurre FM, une heure pour parler de sujets sérieux sans se prendre au sérieux. Ce soir, possession ou pathologie entre réalité et illusion. Honneur aux dames avec Karima Chadibaou, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir.
Directrice pédagogique de l'IERTH. À côté de vous, c'est Fatma Mamouni, bienvenue.
Bonsoir,
voilà, parlez dans le micro, psychologue clinicienne. Le cher Islam Ben Ahmed est là, bonsoir.
Bonsoir,
imam de la mosquée d'Alfortville, théologien traditionniste. En face de vous, c'est Maître Serran qui est là. Maître Serran, bonsoir.
Bonsoir.
Mohamed Rader est là également. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'association Lourati, Langue du Cœur.
C'est ça.
En quoi consiste votre association ?
En venir en aide au public défavorisé en France et partout dans le monde.
Voilà. Et Raki Soufiane est là également, c'est comme ça qu'on vous présente.
Oui.
Voilà. Vous pratiquez la roquia depuis plus de 10 ans et vous êtes responsable de l'association Alistisal, j'espère que je prononce bien, qui est une sorte d'annuaire et qui recense la liste des Raki fiables sur toute la France.
Exactement.
Maître Serran, après vous.
Bah écoutez, c'est parti. Yallah, salam alaikum, les sœurs et les frères. Je suis obligé, hein, mon cher Philippe, de prendre ce ton pour nous mettre dans l'ambiance du thème de l'émission. Mais avant de parler du thème de l'émission, mettons quelque chose au point, au témoin d'un doute. Nous sommes bien dimanche, ce qui signifie que vous ne m'accordez même plus mes week-ends. J'officie tous les jours. Je vais vous mettre l'inspection du travail sur les reins. Sauf, évidemment, si vous me promettez que j'aurai une prime d'assiduité. Prime d'assiduité largement justifiée durant ce Ramadan. Oui, largement justifiée, car vous m'aurez tout imposé durant ce mois saint. C'est quoi votre mission ? C'est de voir si je peux résister à tout. Je vous soupçonne de m'utiliser comme cobaye. Il y a quelques jours, émission spéciale gros. Ou plus spécialement, spéciale grosse. Alors, je ne m'attaque jamais au physique des gens. Vous me connaissez, mon cher Philippe. Voilà. Mais de là à inviter cette femme en surpoids, pour être poli, qui agressait verbalement tous les intervenants. Quand même, on a envie de lui dire, écoute, si t'as un gros kiosque, voilà, c'est pas notre faute, va déverser ta haine. Ailleurs, arrête de qu'il y ait une traduction de t'empiffrer. Mais tu verras, tu vas retrouver le sourire et tu cesseras de ressembler à un truc. Ensuite, hier, émission spéciale femme. Là encore, vous m'avez barbé. Vous m'avez promis que je serais surpris par la qualité de nos invités féminines. Alors, c'est vrai que j'ai été surpris, mais pas dans le sens escompté. Certes, intellectuellement parlant, rien à dire. Mais physiquement, mon cher Philippe, physiquement, oula, c'est pas bien de vous moquer de Maître Serran. Et aujourd'hui, le sujet spécial possession. Alors, je pensais que vous alliez inviter, je sais pas moi, Merlin l'Enchanteur, Harry Potter, me montrer un grimoire. Eh bien non, rien de tout ça. Alors, je dois reconnaître que quand vous m'aviez soumis le sujet, spontanément, je vous ai dit, mais de quoi je vais pouvoir vous parler dans ma chronique pour annoncer le sujet? Je sais pas, c'est un sujet que je maîtrise pas, j'y connais rien, moi, en possession. Et puis, je me suis souvenu d'un type qui cartonnait à l'époque, le Hajj Mamba. On a tous trouvé ça dans nos boîtes aux lettres, des petits papiers du Hajj Mamba qui te promettaient de retrouver l'amour, un boulot, plein d'argent, voire même le réveil de ton dragon. Et le Hajj Mamba avait donc des voyants, sauf que le mec, il n'était pas super au point. Il n'a pas vu qu'il allait recevoir une balle en pleine nuque. Il n'a pas vu son assassin. Ça en dit long sur ses compétences. En réfléchissant au sujet du jour, j'ai aussi pensé au Sehul. Ça fait peur, ça. Tiens, tu vois un exemple du Sehul ? Samedi, tu te maries, t'es content, ta femme est belle. Le lendemain du mariage, tu te réveilles, tu vois un truc sur ton lit à côté de toi. Ce truc, c'est ta femme. La même que tu trouvais belle hier. D'aucuns te diront que t'as été victime de Sehul, mon cher Philippe. Alors, pour ma part, mon cher Philippe, moi, je suis prêt à me faire posséder si ça pouvait m'aider à faire repousser mes cheveux.
Bien. On va voir ce qu'on peut faire. Mais sinon, vous pouvez aller, le chef, voilà, à des adresses.
Ah, bah, vous le balancez. Oui, même pour aller dans le chef, voilà.
Vous pouvez y aller. En Turquie, on fait des trucs très, très bien. Islam Ibn Hamad, est-ce qu'il existe en islam des forces occultes qui peuvent nuire à un être humain, par exemple, et qui sont confirmées par les sources ?
En islam, il y a deux sources. Il y a le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux sources-là affirment l'existence des fils de Adam, l'homme, les anges et les djinns. Les anges, ce sont des gens qui ne sont pas responsables, c'est-à-dire ils sont à l'abri de tout défaut. L'homme, il est responsable, lui, et les djinns, et sont appelés à faire preuve de patience, de surmonter les tentations, etc., pour avancer vers leur Seigneur. En fait, c'est ce que le Coran et la Sunna affirment. Maintenant, est-ce que l'un peut nuire à l'autre dans le Coran et Sunna ? En fait, c'est infirmé. sauf si on peut parler, sauf si on parle de nuire dans le sens, c'est-à-dire le waswas comme Allah Ta'ala nous a décrit, c'est que la seule intervention des djinns dans le monde humain, le monde apparent, c'est par, par pousser les gens à commettre les péchés, en bénissant par exemple certains péchés, etc. En fait, c'est le seul. Et de là, nous, malheureusement, les musulmans, comme on va peut-être développer mieux plus tard, juste après, c'est que nous, les musulmans, on a suivi malheureusement les gens du livre dans cette question. Et on a imaginé des choses à tel point qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des professions qui sucent l'argent des musulmans au nom de l'islam. Aujourd'hui, on a un rari, un spécialiste pour sortir nos préservés de l'jinn ou de sihr, etc. Et on est là pour sucer à la fois les biens des musulmans et de priver les musulmans de comprendre le rôle et de la sagesse du Coran. Allah Ta'ala il nous dit, nous avons fait descendre un Coran béni afin qu'il médite ses preuves. C'est ça l'objectif de le Coran. En islam, il n'y a pas un monde surnaturel, ou etc. En islam, on est responsable, on est des gens qui réfléchissent.
Raki Sofiane, vous êtes interpellé.
En effet, alors je n'ai pas tout à fait le même point de vue que notre cher ici présent.
J'imagine.
Donc c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, en effet. Donc il n'y a pas de consensus sur le sujet. Donc on trouve pas mal de preuves, en effet, dans le Coran et dans les hadiths qui démontrent que le mal que les djinns peuvent faire aux humains est bien réel. Notamment, dans Surat Baqara, Allah Azza wa Jalla nous dit كما يقوم الذي يتخبطه شيطان من المس. Allah nous parle de ceux qui pratiquent l'intérêt usuraire. Il nous dit qu'ils seront secoués de crise, comme celui qui est
la convulsion.
Voilà, exactement. Comme ce qu'on peut interpréter comme les crises d'épilepsie ou les crises de personnes qu'on peut voir qui sont en crise de djinn. Également, il y a un hadith rapporté par l'imam Ahmed, dans lequel le prophète, alayhi salatu wasalam, qui était en expédition, une maman est venue le voir pour lui demander de faire la ruqya à son fils, qui était en crise, qui faisait des crises, et donc les mêmes crises de convulsion dont on a parlé à l'instant. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, a tapoté sur la poitrine de petit enfant en disant la formule « Akhruj ja'adu Allah, ana rasulallah »« Sors ennemi d'Allah, je suis le messager d'Allah » et ainsi l'enfant fut guéri. Pour le récompenser, la maman lui a donné deux moutons et du beurre. Bon, sans rentrer dans les détails, mais le prophète alayhi salatu wasalam a pris un mouton et l'a rendu un mouton. Ce qui signifie que donc ce hadith est clair, sans équivoque, et il montre que le djinn peut faire du mal à un être humain. Et bon, c'est pas le sujet là, mais également qu'on peut recevoir une rétribution, un salaire de la ruqya, tant que ça reste dans des proportions raisonnables. C'est-à-dire, il n'a pas pris les deux moutons, il a pris un mouton, il a rendu un mouton. Voilà.
Bien... Alors, cher Islam, oui.
Barakallahu fi. Notre frère, il a utilisé deux textes. Le premier se trouve dans le Coran, le deuxième se trouve dans le Hadith. En fait, dans le Coran, ils se basent sur le verset, sur le verbe qui est mentionné dans ce verset de Surat al-Baqarah. Le verbe massa, qui veut dire toucher ou posséder, c'est comme ça qu'ils le traduisent. En fait, si on prend le massa, toucher, qui veut dire toucher par le shaitan, en fait, ce verset a été répété plusieurs fois dans l'histoire, dans la Surah de Sad et dans la Surah de l'A'raf. Dans la Surah de Sad, Allah Ta'ala, il parle de Ayyub alayhi salam qui dit à son Seigneur Anni massani shaitan. Et personne n'a dit que Ayyub était possédé par le djinn ou par le shaitan. Non, il était malade, il était touché physiquement. Et donc, mais ça, selon le Coran, ça ne veut pas dire possédé, ça veut dire touché par affecté. Le shaitan.
Barak sens affecté.
Deuxième verset se trouve dans Surat Al-Imran, Surat Al-A'raf plutôt. Allah Ta'ala dit « Inna alladina taqaw idha massahum ta'ifun mina ash-shaitan » ceux qui craint Allah Ta'ala, lorsqu'ils sont touchés, le même verbe, la même expression, qu'ils sont touchés par le shaitan, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rappellent, ils reviennent vers le livre d'Allah Ta'ala. Et on n'en parle pas, on ne parle pas ici de la possession, on parle de l'égarement, du péché. Lorsqu'un croyant est touché ou tenté par le péché, et bien l'islam l'appelle à revenir, à refaire le repentir, etc. Et donc, selon le Coran, le verbe massa, ce n'est pas possédé. En fait, c'est une interprétation. C'est une interprétation qui est apparue beaucoup beaucoup plus tard, après, je vais vous expliquer l'histoire de la possession in istam. Et concernant le texte, en fait, le frère, il parle du texte de cette fameuse femme qui était venue avec son fils, qui était soi-disant possédée. Nabi sallam, il a mis un coup sur sa poitrine. Il dit dans le texte arabe, c'est-à-dire, il a toussé, il a, etc. Et il a expulsé de son corps ce fameux djinn. En fait, ce texte-là est apparu en 2e siècle et rapporté par Hamad ibn Salama, d'après Farqad Sabri, d'après Saïd ibn Joubert, d'après Abdullah ibn Abbas. Et en fait, celui qui a écrit dans le livre, dans le recueil du hadith de Hamad ibn Salama, fin 2e siècle, en fait, c'était un Perse qui était, en fait, qu'on a capturé ses parents qui étaient Perses, on les a torturés à l'époque de Bani Umayya, et donc lui, il avait la haine contre l'islam, et ce qu'on appelle, on l'appelle Khalid al-Madaini, et il a écrit, et même souvent des savants de l'époque, ils ont signalé ce personnage dans l'imam Mohammed al-Thalaji, qui est mort prosterné en deuxième siècle, qui était proche de l'imam Ibn Sa'd. Donc ce n'est pas un texte tout simplement, c'est un texte purement inventé pour pousser encore les musulmans dans l'imaginaire et dans l'imagination.
Alors, vous avez certainement peut-être... Oui, alors, Karima,
oui,
c'est Dibaou.
Moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat d'exégèse ou de texte véridique ou pas véridique.
Vous voulez rentrer dans quel débat, Karima?
Moi, je vais rentrer dans le débat qui est... je pense que Fatma va être d'accord avec moi.
On a des psys, c'est pour
voilà,
ça.
Voilà, ben bon. Voilà. Donc, nous, on va parler de ce qu'on connaît, de ce qu'on vit au quotidien. Le thème, c'est donc l'islam, le culte et l'occulte. Et que souvent, malheureusement, parce que par ignorance... ou par incompréhension, on va interpréter certains gestes, certaines attitudes, certains comportements qui sont plus de l'ordre de la pathologie ou du trouble psychique, et on va les assimiler à quoi ? À une possession, à quelque chose d'occulte. Pourquoi ? Parce que souvent, le problème, c'est que la personne humaine a du mal... et très très souvent du mal à prendre la responsabilité en fait de ce qui lui arrive. Parfois ça peut être des colères, ça peut être des tristesses profondes, ça peut être des états vraiment émotionnels difficiles à gérer qui vont créer des attitudes, qui vont créer des comportements, qui vont créer des mécanismes de pensée, des mécanismes de défense aussi, qui peuvent donner l'impression qu'il y a peut-être une possession. Moi je pratique l'EFT. On en a parlé le jeudi dernier. L'EFT, c'est l'Emotional Technique Freedom. C'est des techniques de libération émotionnelle. Et je vous assure que quand on libère cette énergie d'émotions qui sont restées bloquées, qui sont restées coincées à l'intérieur du corps, on a des gens qui convulsent, on a des gens qui font des crises qui peuvent s'apparenter à des crises d'épilepsie. On n'est pas des neurologues.
Mais ces voix, vous avez vu ces vidéos où on voit des gens avec des voix qui sortent, on ne sait pas où.
Je vais vous dire, moi j'accompagne aussi les gens dans le travail de l'enfant intérieur, des blessures de l'enfance, où la personne reprend sa voix d'enfant et on peut se dire c'est peut-être une voix d'outre-tombe. Alors je ne suis pas en train de dire que la ruqya n'existe pas et que la ruqya, il ne faut pas la faire. C'est pas ce que je suis en train de dire.
On va essayer de la définir ce soir, qu'on comprenne bien sa définition et son domaine d'application.
Et ça, c'est important parce que je veux vraiment, vraiment, vraiment que nos auditeurs puissent comprendre ça. Et
qu'est-ce qui relève du psy ?
Voilà,
qu'est-ce qui relève d'un technicien, d'un praticien de la psychologie, et qu'est-ce qui relève de la ruqya ?
Absolument. Donc là, qu'est-ce qui relève de l'imam ? Et de l'imam, parce que là, il y a trois professions ici qui sont...
On a un avocat après, si vous vous êtes tous fâchés.
On en parle aussi au cabinet, on l'évoquera peut-être plus tard.
Et c'est vrai
On va faire une
application, un cas concret de terrain.
Mais complètement, c'est-à-dire que moi, la notion de possession, de sorcellerie et tout ça, on m'en parle au cabinet. J'ai des clients en grande majorité de confession musulmane. Et puis, quand on vient me voir pour des histoires de divorce ou autre, souvent, on met ça sur le compte de ce que je disais tout à l'heure, du shul, ou que la personne était possédée, ou c'est la belle-famille qui est derrière. D'aucuns n'hésitent pas à me dire, faut en parler au juge pour qu'ils comprennent. Alors évidemment, je leur dis, c'est encore une fois, si je dis au juge, attention, il y a seul quelque part, il revient avec deux types et puis on m'enchaîne. Mais culturellement, ça, je l'entends assez régulièrement et ils sont même parfois presque vexés. Encore une fois, je comprends quand ils parlent de ça, je vais pas faire semblant et écarquiller les yeux, mais je leur dis, c'est pas possible. C'est-à-dire, l'avocat pourra évidemment pas soutenir cette thèse devant un magistrat au sein d'un tribunal. Donc, ils ont un peu de mal à saisir ça.
Oui, pas facile à défendre.
Mais pas du tout. Mais c'est vrai que je l'entends assez régulièrement. Ça revient sur le tapis.
Alors, Raki Sofiane, vous avez dénoncé il y a quelques années ce qu'on appelle les arnaques à la ruqya.
Exactement.
C'est-à-dire que, c'est quelqu'un qui vous appelle chez vous.
Ah oui, tout à fait, exactement. Donc c'est un numéro qui appelle en 08 et qui promet une ruqya gratuite. Et donc, il dit qu'il faut rappeler sur ce numéro-là, 08, pour pouvoir en bénéficier. Et donc, sauf que c'est un numéro surtaxé, et vraiment bien surtaxé. Mmh. Et les personnes sont tenues comme ça au téléphone pendant des minutes ou des heures. Et ils ont la surprise à la fin du mois avec des factures de plusieurs centaines d'euros. Donc, nous dénonçons.
Donc là, ce sont des arnaques au numéro de téléphone, en fait. Hein. Ce n'est pas vraiment des arnaques à la roquia, c'est plus le numéro de téléphone.
Alors, lorsque la personne rappelle, il y a une lecture du Coran. Il y a une lecture du Coran, donc on leur fait miroiter que c'est cette lecture-là qui va les soigner.
C'est le désespoir des gens, quoi.
Exactement. Donc, la roquia, malheureusement, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de charlatans, beaucoup de profiteurs qui essaient qui jouent sur la détresse des gens pour leur extirper des sommes pharaoniques. Donc, comme vous l'avez dit dans ma présentation, je suis un des responsables de l'association El Istisal. Donc, on est une liste de soignants répartis un peu partout sur toute la France et maintenant en Europe aussi, pour proposer aux gens une liste de soignants fiables.
C'est une éthique de la roquia.
Exactement. On a une charte. Donc, on soigne strictement qu'avec le Coran et la médecine prophétique. Pas de violence pendant la roquia. Donc, ça aussi, c'est un problème. Il y a beaucoup de faits divers, malheureusement, qu'on entend. On a une transparence totale sur les traitements qu'on donne et on a fixé un tarif maximum de 50 euros pour la consultation avec tout le traitement compris. Donc là, il y a la hijama, la ruqya et un traitement complet avec de l'huile de nigel, avec du miel, avec des plantes, etc. Donc tout ça, c'est compris dans la consultation.
Chez Islam et après Karima.
Je crois qu'il y a un problème fondamental. Et en fait, il faut mettre le doigt là où ça ne va pas.
Ben, allez-y, je compte sur vous pour le faire. J'ai compris votre genre. Vous mettez le doigt où ça fait mal. Alors allez-y.
Le problème, c'est que ce n'est pas du fait qu'il y a un raqi charlatan, un raqi vrai. En fait, le problème, en fait, qu'est-ce que, en fait, en tant que, on parle dans le domaine islamique, je pense, car on utilise bien le Coran. Mmh. Et donc, qu'est-ce que l'islam, en fait, dit sur ça? Et il faut qu'on aille voir les textes. Est-ce que déjà, cette position, par exemple, existe? Et la deuxième chose, est-ce que le Coran guérit? La possession, c'est ça, existe. En fait, il y a deux questions qui sont fondamentales.
Bon, alors, est-ce que la possession existe?
Barakallahu fik. La possession, tout simplement, elle n'existe pas, car nous n'avons absolument aucun texte, aucun exemple au premier siècle, bien à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin des grands compagnons, qui atteste l'existence. On a vu un cas de quelqu'un qui était possédé. Ça n'existe tout simplement pas. Le patrimoine, on l'a revu des dizaines de fois, ça n'existe pas. Si, après je vous demande si vous avez des textes, bien sûr, car je sais généralement les textes sur lesquels se base.
Mais attendez, on va lui laisser les apporter.
Et bien sûr, d'accord, bien sûr, on est là pour ça. Et la deuxième chose, est-ce que le Coran al-Karim guérit ces maladies? On n'a aucun texte, ni dans le Coran, ni dans le Hadith, qui nous dit que le Coran al-Karim est un remède. En fait, c'est ce que les gens imaginent. Le Coran al-Karim ne guérit pas les maladies. Le Coran al-Karim guérit les maladies spirituelles du cœur. C'est ce que le Coran al-Karim affirme. Je vous laisse vous exposer.
Non, vous allez nous laisser méditer le temps d'une courte page de publicité et on revient dans un instant.
Ramadan & Co revient dans un instant. 19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Possession ou pathologie entre réalité et illusion, on en parle avec Karima Chadibaou, directrice pédagogique de l'IERTH, Fatma Mamouni qui est psychologue clinicienne, Azaïs Kalsi nous a rejoint, directeur de l'IERTH. Bonsoir Azaïs.
Bonsoir Philippe.
Vous êtes en retard.
Bonsoir à tout le monde.
Et pourtant on est dimanche.
Ah oui, il y a du monde sur la route.
Ah oui, ça roule. Med Serran est là également avec nous, Raki Soufiane, Mohamed Raber qui est directeur de l'association Lourati Langue de Cœur, et puis cher Islam Ibn Ahmad, imam de la mosquée d'Alfortville, théologien traditionniste. Alors, on a quand même un fait divers qui est arrivé donc vendredi soir avec cet homme qui s'est suicidé du haut de la grande mosquée. Fatma Mamouni, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il avait cet homme?
Apparemment, il avait une maladie psychiatrique, il avait des troubles. Et c'est les informations qui ont circulé par son frère, une personne qui a parlé à son frère. C'était un jeune homme de 26 ans et pour faire un tel acte, il était certainement en délire. Et apparemment, c'était un jeune homme qui avait des troubles psychiatriques et qui avait fait plusieurs ruqya, qui n'avait pas été traité par...
Mais il n'avait jamais été pris en charge par un professionnel
Que l'on sait.
Ouais, d'informations, enfin ce qu'on a là maintenant, c'est qu'on ne sait pas du tout. Et même on dit suicide, moi je préfère dire on ne sait pas parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé.
Ça ne peut pas être un suicide. Un suicide, c'est avant tout intentionnel.
Voilà, absolument.
À quelqu'un qui a des troubles psychiatriques et qui se jette,
Alors, Raki Soufiane, comment est-ce qu'on fait finalement pour faire la part des choses entre quelqu'un qui souffre d'une pathologie qui relève d'un professionnel de la psychologie ou alors quelqu'un qui va faire une roquia? Comment est-ce que vous traitez ça et comment est-ce que vous faites la part des choses et comment est-ce que vous réorientez la personne si elle doit l'être?
En effet, donc on fait la part des choses avec la raison. C'est-à-dire que on fait la c'est-à-dire par exemple c'est alors je cherche un exemple concret. Par exemple, quelqu'un qui j'ai soigné il y a quelque temps une jeune fille qui était diagnostiquée bouffée délirante. Donc, elle était hospitalisée en psychiatrie pendant 2 ans. Et puis, la famille n'a pas vu l'évolution, l'amélioration de son cas. Et donc, ils se sont battus pour la faire sortir. Donc, ils l'ont fait sortir en signant une décharge. Et donc, ils me l'ont amené pour faire la ruqya. Donc, je l'ai soigné, alhamdoulilah, avec le Coran, avec la médecine prophétique, ce que nous a enseigné le prophète, alayhi salatu wasalam. Et au bout d'un traitement de 2 semaines, elle avait des rendez-vous régulièrement chez son psychiatre. Et donc, les médecins ont accepté qu'elle sorte à condition qu'elle prenne 20 cachets par jour. Autant vous dire que c'était comme un légume. Et au bout de 2 semaines, le psychiatre était tellement étonné. Il a dit, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais vous avez réussi en 2 semaines ce que nous, on n'a pas réussi à faire en 2 ans. Il a dit, vraiment, vous devrez être remboursé par la Sécurité sociale.
Ce qui n'est pas le cas, je vous rassure.
En effet, n'est-ce pas? Non. Alors maintenant, à tel point qu'il est passé de 20 cachets en 1, en l'espace de 2 semaines à un mois. Maintenant, ça ne remet pas du tout en cause les pathologies psychologiques, psychiatriques. Nous avons constaté, dans le domaine de la ruqya, que plus la personne elle est forte psychologiquement, plus elle est forte de caractère, moins sera touchée par ces problèmes-là et plus facilement elle sera guérie. Et inversement, plus la personne est faite psychologiquement, plus elle a vécu de traumatismes dans sa vie, plus elle sera exposée à ces problèmes-là et plus difficilement elle sera guérie. Donc, ça m'arrive régulièrement de rediriger, d'orienter mes patients vers des psychologues. Ça m'est arrivé de travailler avec Fatma Mamouni ici présente. Et donc, pour permettre aux patients d'évacuer les traumatismes qu'il a vécu pour être plus armé psychologiquement et pour mieux traiter le problème
Ce qui me paraît important, c'est de ne pas se diviser par rapport à cette question.
Exactement.
La question du vrai ou du faux, moi, je pense qu'elle n'est pas vraiment importante. Mm-hmm. Le patient, il a avant tout besoin d'être rassuré. Mm. Et le patient, il fait ses propres choix aussi par rapport à ça. Une méthode n'exclut pas l'autre. Voir un psychiatre parce qu'on a des troubles, prendre un traitement, faire une psychothérapie, faire une ruqya, il n'y a rien qui est mauvais dans la démarche. Ces démarches-là, elles sont complémentaires. Ce qu'il faut ensuite, c'est bien expliquer au patient ce qu'il en est par rapport à la démarche. Un traitement est là pour masquer la manifestation des symptômes. Une psychothérapie va aider la personne à s'en sortir, à réfléchir, à travailler sur ses troubles, à éviter que cela se reproduise. Une ruqya, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah, ça ne peut que faire du bien. Il faut vraiment qu'on évite les divisions dans ces
D'accord,
sujets-là.
Mais Chérissa me dit tout à l'heure que ça ne soigne pas. C'est bien que
mais ce qui est mauvais dans l'histoire, c'est qu'en islam, nous n'avons pas un métier qui s'appelle ruqya. Ça n'existe pas, ce concept, dans les textes. Je ne sais pas d'où ou qui nous a révélé l'existence de ce qu'on appelle ruqya. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parfois, une méthode qui est incapable ne justifie pas une autre méthode. Car moi, je me rappelle de la parole de Ibn Sina qui disait al-wahmu nisfu ad-dawa. Al-wahm, en fait, c'est d'être convaincu par quelque chose, c'est à peu près l'effet placebo.
Barakallahu fik.
En fait, c'est la moitié de la guérison. Moi, quand je vais chez le médecin, avant que je rentre chez le médecin, j'ai beaucoup plus de mal, etc. J'ai peur, etc. En fait, c'est psychologique. Et quand quelqu'un me dit, je t'ai récité le Coran al-Karim, psychologiquement, je me sens mieux. Je me rappelle de ce que rapporte l'imam Ibn al-Jawzi, et c'est intéressant. En fait, il le rapporte ça d'après l'imam al-Jahid, il nous dit qu'à son époque, il y avait un raqi. Il y avait un raqi qui était spécialiste dans la ruqya des dents. Quand on a mal aux dents, on allait voir ce raqi.
On n'est pas chez le dentiste.
Barakallahu fik. Et ça, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et donc, on allait voir ce raqi pour se faire soigner chez lui. Et il nous disait, voilà, je vous fais ruqya. Il leur récite le Coran al-Karim. Il leur dit, mais je vous impose des conditions. Bien une condition. Il ne faut jamais penser au singe. Le singe. Et donc, le lendemain, la personne revient avec les mêmes douleurs. Mais, et le rachid lui pose la question, mais as-tu pensé au singe cette nuit? Bien sûr, déjà, il lui a dit. Et donc, il a passé toute sa nuit avec le singe. Et bien, c'est pour ça. Et il nous dit, l'imam al-Jahid, qu'il gagnait sa vie grâce à ça. Aujourd'hui, on a... Et ça, c'est une question, j'aimerais
c'est
bien que les frères...
C'est une induction.
Barakallah. J'aimerais bien que les frères, le frère me réponde à cette question. Aujourd'hui, quand on va voir un rachid, à chaque fois qu'on ça marche pas... Eh bien, il te sort quelque chose. Mais tu as des images chez toi, tu as une représentation humaine. Donc, c'est pour ça, les gens, je ne rentre pas. On est toujours dans les légendes, ce qu'on a importé, des légendes yamanites. Et pourquoi ça n'a pas marché? Mais tu as écouté de la musique. Ah, ben, vu que la musique, soi-disant, c'est haram dans le patrimoine des hommes, eh bien, ça ne marche pas. Et donc, à chaque fois, on trouve une excuse. Et là, je vais poser une question toute simple. Regardez ce que le Coran al-Karim nous dit. Voilà, nous, le problème chez les musulmans, c'est que les musulmans ne lisent pas le Coran al-Karim. Malheureusement, et moi aussi je vais passer, j'ai passé un moment de ma vie en train de faire ruqya, et j'ai cru même parfois parler avec des jeunes juifs, parfois chrétiens, parfois même j'ai cherché un traducteur quand j'étais à l'université, car le jeune il m'a dit qu'il était indien. Voilà, en fait c'était psychologique pour moi, et après j'ai surmonté.
Mais comment vous l'avez su que c'était psychologique et que c'était pas un jeune
à travers mes
il a fait ruqya sur lui.
Hein?
J'ai fait la réaction. Moi, j'avais compris que la roquette, ça se faisait d'abord sur soi-même, mais bon.
Je termine juste l'idée. Disait avec moi le Coran al-Karim. Allah Ta'ala a traité le sujet de la guérison dans le Coran al-Karim. Il a parlé du miel et il a parlé de le Coran qui est une guérison. On est d'accord? Regardez, lorsque Allah Ta'ala parle de le Coran, et je vais répondre à la question. Le Coran n'est pas, je redis, n'est pas une guérison pour les pathologies qu'on connaît. Ce n'est pas une guérison. Je vais vous expliquer, si vous voulez, selon le Coran, comment le Coran peut guérir quelque chose. Mais ce n'est pas du tout de la manière pratique aujourd'hui que quelqu'un dicte sur toi le Coran. Je vous pose la question. Allah Ta'ala, en parlant du miel, il a dit « Fihi shifa ». Le miel contient, il n'a pas dit c'est une guérison, il contient une guérison. En parlant du Coran al-Karim, il a dit « Wa nuzilmu al-Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazilu dhalimin al-khasara ». Il a dit « On fait descendre le Coran, ce qui est une guérison ». Maintenant, la question qui se pose, 99% de cas, façon de parler, mes expériences, les expériences autour de moi, j'ai fréquenté toute ma vie des choses, des images.
Est-ce que ça fait un panel suffisamment large pour en faire une...
La majorité des cas, ça donne rien du tout. Maintenant, est-ce qu'on met un doute sur le Coran? Bien sûr, le Laqi, il va nous sortir quoi? Pas sur toi le frère, mais le, de manière générale, il va nous sortir quoi? Ben, il manque une condition. Mais le Coran, il t'a dit que le Coran est une guérison. Selon ton interprétation, le Coran est censé guérir toute forme de maladie et pas que la possession. J'aimerais bien qu'on me réponde.
Alors, Raki Sofiane, sur la question.
Alors, sur la question, alors, déjà, je réponds à sa première question qui disait qu'il n'y a pas de ruqya, qu'il n'y a pas de métier qui s'appelle la ruqya en islam. Pourtant, à l'époque du prophète, il n'y a pas de métier qui s'appelait informaticien. Ça ne veut pas dire que l'informatique, c'est haram. Il n'y avait pas de psychologue non plus. Ça ne veut pas dire que la psychologie c'est haram.
Alors, ce n'est pas la religion.
Dans le verset qui dit nous avons descendu dans le Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc, à aucun moment, Allah Azza wa Jalla nous parle de quelle guérison il s'agit. Est-ce que c'est de la guérison mystique, spirituelle, ou la guérison physique? Tu nous dis qu'il ne s'agit pas de la guérison physique, mais uniquement spirituelle. Alors, je voudrais savoir où est la preuve.
Je vous donne la preuve.
Il n'y a pas ça. Alors, par contre, juste pour finir rapidement, parce que Allah Azza wa Jalla nous dit également dans Surat Al-Falaq, wa min sharri naffathati fil 'uqad. Allah nous demande de placer notre protection contre celles qui soufflent sur les nœuds. Celles qui soufflent sur les nœuds, c'est les sorcières qui font des nœuds, ainsi peuvent bloquer la vie de quelqu'un, par exemple pour qu'elle ne travaille plus, nouer le ventre d'une femme pour qu'elle n'enfante pas, nouer la tête d'un élève pour qu'il ne comprenne plus rien à l'école, etc. etc. Et donc ça montre bien que le mal que cette sorcière peut faire en nouant des nœuds est bien réel. Si Allah nous donne des versets pour nous protéger et pour nous soigner, c'est que le mal de ces nœuds est bien une réalité.
La question, selon le Coran, c'est une guérison. J'aimerais bien qu'on me réponde sur cette question. En fait, personne jusqu'à ce jour-là n'a pu répondre à cette question. Le Coran, il dit quoi? C'est une guérison. Et donc, c'est une guérison. Contrairement au miel, il a dit dans lequel il y a une guérison. Donc le miel, on a bien compris, selon le Coran, ce n'est pas une guérison pour toutes les maladies. Il a des bienfaits. Mais le Coran, il a dit c'est une guérison. Moi, je prétends, selon le Coran al-Karim, le Coran est une guérison pour toutes les maladies spirituelles. C'est ce que le Coran affirme.
C'est un avis qui n'engage que toi, je pense.
Barakallahu fik. Mais selon vous, ce verset affirme l'existence de Ruqya. Maintenant, je vous pose la question, comment expliquez-vous que 90%, beaucoup de cas, de manière générale, des cas, même un seul cas, il n'est pas guéri. Donc ça contredit.
Parce que si vous dites 90%, je veux voir l'étude. Attention.
Exactement. Ouais. Même un seul cas. Ça fait 10 ans, alhamdoulilah, que je pratique. Allah m'a permis de soigner plusieurs milliers de patients.
Non.
Alhamdoulilah, il y a des femmes qui faisaient des fausses couches, qui faisaient des fausses couches à répétition.
La question, ce n'est pas.
Du jour au lendemain, alhamdoulilah, Allah lui accorde un enfant. Alors que ça faisait des années qu'elle était bloquée, qu'elle faisait des fausses couches, etc.
Comment expliquez-vous qu'il y a même un seul cas ou des cas qui ne sont pas guéris par la récitation, tout en sachant que le verset, selon vous, il est général. Et donc, moi, si j'ai le cancer, je me dirige vers le Coran, est-ce qu'il me guérit? On voit des gens qui récitent et ça ne marche pas. Comment expliquez-vous?
Comme des personnes prennent des médicaments et guérissent.
Mais
selon le Coran, il dit que c'est une guérison. Selon Allah, c'est une guérison.
Min al-Qur'an, tu as dit tout à l'heure, fihi shifa.
Non,
c'est min al-Qur'an aussi, c'est une...
C'est le miel qui est
chifa. Oui. Les gens, quand ils font appel à ce genre de méthode, que ce soit la ruqya ou autre, c'est des gens qui sont souvent en détresse, qui sont malades, qui sont vulnérables. Ils savent bien que ce n'est pas une baguette magique. Ils savent bien que ça n'a pas marché du premier coup. Mais ils ont besoin d'être
assurés. Ça contredit le Coran, selon leur...
Mais c'est vrai que ce sont des gens en détresse qui y vont parce qu'il y a beaucoup d'espoir.
Philippe, moi, je voudrais bien qu'on sorte un petit peu aussi du débat. C'est vrai, c'est pas vrai. Avec les injonctions du cheikh, j'aimerais bien sortir de là, s'il vous plaît, parce que les auditeurs qui nous écoutent ont besoin de savoir, quand ils sont en détresse, peut-être qu'il y en a qui sont dans cette situation-là, ils aimeraient savoir quoi faire. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt aller explorer et plutôt aller questionner la demande implicite de la personne quand elle vient rencontrer soit un psy, soit un raqi, soit un imam. C'est quoi sa demande implicite? Sa demande implicite, c'est quoi? C'est aide-moi à recréer l'unité en moi.
Mais déjà, est-ce que le fait de choisir tel ou tel intervenant...
Peu importe. Moi, je pense, vraiment, parce que sinon, on va rester dans les divisions et on n'avancera pas. Et les gens qui nous écoutent vont être complètement perdus. Moi, je pense, de mon point de vue, que chacun sa spécialité. Maintenant, l'être humain, il est un et indivisible, d'accord? Mais à l'intérieur de l'être humain, il y a différentes parties. Il y a Ruh, il y a son âme, il y a son ego, il y a son corps, il y a ses émotions, il y a son cœur, il y a toutes ces dimensions-là. Maintenant, si on est raqi, ou si on est psy, ou si on est imam, avoir la prétention de dire qu'on va soigner tout ça, uniquement avec une seule méthode, là, je ne suis pas d'accord.
Tout à fait.
Maintenant, différentes portes. Il y a différentes portes. Maintenant, dire que la possession existe ou pas, moi, personnellement, je ne suis pas habilité pour le dire. Je ne suis pas habilité pour le dire. Maintenant, dire que le Coran, je ne sais pas, en tout cas, moi, j'ai parlé pour moi. Moi, je n'ai pas les diplômes pour vous dire comment je vais interpréter ces versets du Coran. Vous, peut-être, chers,
en fait, il y a un problème aujourd'hui fondamental. Il y a des gens qui divorcent à cause de Ruqya.
Oui, mais pourquoi? Moi, je vais vous dire
pourquoi
les gens divorcent.
Il y a des familles divisées, car ils vont voir un raqi qui n'est même pas
qualifié. Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens qui divorcent, la plupart du temps, ne veulent pas prendre responsabilité. Maître Serra nous l'a dit, il reçoit dans son cabinet, au lieu de dire « je suis responsable de la relation que j'ai créée avec mon épouse ou avec mon époux » ou « on n'arrive pas à créer l'harmonie », au lieu de dire « j'ai un problème, j'ai peut-être des casseroles que je dois aller régler,
ça vient peut-être de moi »,
ça vient peut-être de moi, non, c'est plus facile de dire « oh là là, il y a une entité invisible, il y a de la jalousie probablement, de l'envie, oui ». Mais je ne veux pas qu'on dise que c'est la faute de ça ou ça. C'est simplement dire que cet être humain, il a besoin d'être éduqué, il a besoin d'être accompagné, il a besoin de vraiment qu'on puisse faire la lumière de qui il est et de la mise en relation.
Azaïs, rapidement, avant la pub, et puis on vous mettra
rapidement, peut-être pour lancer ce qu'on dira après la publicité. Tout d'abord, je remercie Sofiane d'être venue, parce que c'est pas évident d'être à sa place.
C'est
courageux. Donc ça se voit qu'il a fait Ruqya. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une chose, pourquoi je dis ça? Est-ce que c'est pas pour plaisanter? Dans le sens où, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de beaucoup de choses, mais on n'a pas défini les mots. Que veut dire occulte? Que veut dire ésotérique? Que veut dire spiritualité? Que veut dire médecine? Que veut dire prophétique? Que veut dire ruqya, raqi? Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à maintenant, en fait, nos auditeurs peuvent être perdus juste par les mots. On parle du contenu, mais on n'a pas parlé encore du contenant. Avant d'aller à l'intérieur, essayons de savoir est-ce qu'on parle d'un verre, d'un vase, d'un saladier. Pour l'instant, on n'a pas défini les mots, ça serait bien qu'on les définisse après.
De toute façon, on est là jusqu'à 20h et on débordera peut-être tellement le sujet est passionnant. Ramadan & Co jusqu'à 20h sur Beurre FM.
19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM. 19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
possession ou pathologie entre réalité et illusion, avec beaucoup de monde ce soir. Karima Shadi Baou qui est là, Fatma Mamouni, Raki Soufiane, vous êtes à Noisy-le-Sec. Hein,
exactement.
Je vous demandais de le préciser. Mohamed Rabert, le directeur de l'association Lourati, Maître Mourad Serran qui est là, Azaïs Kelsi qui nous a rejoint.
Je suis à 100 points.
C'est vrai.
Enfin, je le précise.
Est-ce que vous voulez donner votre numéro de téléphone, Maître Serran aussi
06 62 58 voilà. 59 64, mais on n'est pas là pour ça.
Votre Facebook, votre
Instagram. Je vais venir me voir dès demain.
D'accord. Non, mais c'est important que tout le monde puisse savoir où on vous joint, Maître Serran. Cher Islam Ibn Aman est également avec nous, imam de la mosquée d'Afourville, théologien et traditionniste. Bon, alors, on parlait de la précision des mots. Comment est-ce que vous définissez votre... Alors, est-ce qu'on peut dire profession, Raki Soufiane?
Je suis un soignant, donc oui, on peut dire
c'est votre métier. C'est votre métier.
C'est votre métier, métier en effet, tout à fait.
Sur votre carte professionnelle, il y a écrit quoi?
Traitement des problèmes de sorcellerie, de mauvais œil, de djinn avec le Coran et la médecine prophétique. D'accord. Alors, je trouve dommage que le débat tourne autour de la possession, alors que c'est vraiment un problème mineur qu'on rencontre chez nos patients. La majorité de nos patients ne font pas de crise.
Ils viennent pourquoi alors?
Bien heureusement. Alors, on soigne 4 symptômes. Dans la ruqya, premièrement, c'est le blocage dans la vie. La personne qui n'arrive pas à travailler, qui n'arrive pas à se marier, qui n'arrive pas à enfanter, ce qu'elle essaie de bâtir comme projet dans sa vie, ça échoue, ça coule de façon répétitive et anormale. On vous promet un travail, on vous dit c'est bon, vous êtes la personne qu'il nous faut, et finalement, à la dernière minute, on a changé d'avis, ou bien voilà, on a pris quelqu'un d'autre, etc. Pas une fois, pas deux fois, systématiquement. À partir du moment où c'est systématique, répétitif, anormal, c'est là qu'il y a un problème. C'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran, wa min sharri naffathati fil 'uqad, c'est la sorcière qui fait des nœuds pour faire des blocages dans la vie de la personne. Deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. La personne qui a des douleurs physiques, elle a des maux de tête, elle a des maux de ventre. On va voir les médecins, ils ne comprennent pas. Malgré les traitements qu'on prend, ça ne guérit pas. Notamment, il y a un problème de peau qu'on appelle le psoriasis. C'est un eczéma, on va gratter, etc. Ça va jusqu'au sang. Et ça, la médecine ne sait pas traiter ça. Alhamdoulilah, avec la hijama, la ruqya, on arrive à traiter ça. On explique ça par un contact direct avec la sorcellerie. Également, il y a une maladie, des problèmes digestifs inexpliqués. Il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Crohn. C'est le système immunitaire qui attaque le côlon. La médecine ne comprend pas cette maladie-là. On constate ça dans les examens. On voit que le système immunitaire attaque le côlon, mais on ne comprend pas. Donc on donne un traitement à vie. Il n'y a pas de guérison, il y a un traitement à vie. C'est ce qu'on appelle une maladie auto-immune, une maladie chronique.
Et surtout, c'est des maladies psychosomatiques.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça.
J'ai des patientes qui sont atteintes de la maladie de Crohn. Tout ce que vous avez dit là,
oui,
maladie de Crohn, le psoriasis, exactement. L'eczéma, tout ça, c'est des maladies en fait.
Alors nous, j'aimerais qu'on aille au bout des symptômes que vous traitez, puis après on donnera la parole aux autres. Alors après la maladie de Crohn, il y a quoi d'autre?
Rapidement, on explique ça par la sorcellerie mangée, qu'il n'y a pas de couleur, pas d'odeur. On ingurgite ça, on ne se rend pas compte. Mais dans le système digestif, ça se recascole comme de la glu contre la paroi. Ça peut être n'importe où, on passe sans par l'œsophage, l'estomac, les intestins, le côlon. Là où c'est collé, l'effet premier, c'est que ça fait des blocages dans la vie de la personne.
Les autres pathologies que vous soignez.
Troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. Personne qui est déprimée sans raison, qui se met en colère pour rien, il y a des problèmes dans le couple, on va chercher des raisons, il n'y en a pas. Ça peut aller jusqu'à la folie. C'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et sa femme. C'est-à-dire deux êtres qui se sont choisis, qui s'aiment d'amour et qui, du jour au lendemain, ils ne se supportent plus, ils ne peuvent plus se voir lorsqu'ils sont loin. Lorsqu'ils se manquent, lorsqu'ils sont ensemble, c'est la guerre. Alors, le quatrième et dernier symptôme, c'est les cauchemars. La personne qui rêve qu'on les poursuit, qu'on l'agresse, qui rêve des animaux, qui rêve de tomber de haut, qui rêve des morts, qui rêve des rêves érotiques, ce genre de choses.
Et qui sont des expressions de l'inconscient.
Si on se retrouve maintenant, mon traitement de la ruqya ne remet pas en cause du tout les problèmes psychologiques, psychiatriques, les pathologies psychiques. L'un n'est pas incompatible avec l'autre.
Vous êtes complémentaire. Azaïs Kelsi, naturopathe.
Merci Philippe de me donner l'occasion de parler. Je réitère ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment courageux de la part de Soufiane de parler ainsi, surtout qu'il est le seul, et obligatoirement ce qu'on va dire va être à l'encontre de ce qu'il dit depuis tout à l'heure. Et c'est bien. En fait, il me rappelle ce que j'ai entendu tout à l'heure quand j'étais dans la voiture, Maître Serran qui parlait du Hajj Mamba. Donc attention au Hajj Mamba.
Ne pas mettre dans le même sac.
Oui, justement, je ne te mets pas dans le même sac, je vais te dire. En fait, dans la notion de médecine prophétique, moi je suis toujours dans une démarche pédagogique. Quand j'ai mes étudiants en face de moi, moi je suis docteur en nutrition, je travaille avec des universitaires, donc tant dans la partie psycho, dans la partie neurosciences, que dans la partie en fait aussi physiologique, médecine, ou alors d'autres domaines encore plus complexes. Ce que je veux dire ici, c'est que quand il y a le terme médecine prophétique, dans cette expression, il y a deux mots. Il y a le mot médecine et il y a le mot prophétique. Dans le premier mot, il y a le mot médecine. Si on devait définir le terme médecine, on ne va pas le définir ici, mais ça induit toutes des études sur la partie psycho-émotionnelle comme la partie physiologique. Ça veut dire que c'est une compétence. Le médecin est compétent pour dire comment fonctionne le corps humain. Quand on parle de prophétique, c'est-à-dire qu'on a une très bonne connaissance de l'apport d'un prophète. Ici, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dont on parle. On pourrait parler du prophète Moïse pour les juifs, ou du prophète Jésus, ou Jésus pour les chrétiens. Qu'est-ce qu'a apporté cet homme de Dieu, ce prophète, dans un cadre plutôt de santé, entre guillemets, puisque le terme santé aussi, c'est aussi une définition particulière. Mais moi, je reviens toujours à la première. Premier mot, le médecin. Le médecin, c'est une compétence. Moi, quand je parle à mes étudiants et que je leur dis voilà comment fonctionne le cerveau, il faut que je sache comment fonctionne le cerveau. Quand je parle de la partie psycho-émotionnelle, il faut que je sache ce que veut dire le terme psychothérapie, comme le terme psychologie, comme le terme psychiatrie. Donc là, le frère a vraiment, c'est à tout à ton honneur, tu parles de beaucoup de pathologies, comme la maladie de Crohn, comme tu parles du psoriasis, comme tu parles de plein de choses, mais ça, ce sont des maladies physiologiques qui s'expliquent et qui, contrairement à ce que tu crois, se traitent. Il faut juste avoir une connaissance de la médecine et une connaissance aussi de l'apport aussi non traditionnel, puisque moi, c'est ma spécialité, la phytothérapie, parce que moi, je suis aussi scientifique, je suis chimiste de formation. Quand le frère tout à l'heure disait Dieu parle du miel et il y a une guérison. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « Al-habba sauda shifa al-likullida ». Donc, c'est une guérison pour toutes les maladies.
Non, vous parlez du psoriasis.
Oui.
Vous dites que ça se soigne. Ça se contrôle.
Non, ça se soigne.
Moi, je vais vous dire.
Je vais pas vous raconter
ma vie. Non, le psoriasis, ceux qui nous écoutent et qui ont du psoriasis, ils disent, ah oui, ça se soigne.
Oui, je vais te dire.
On va tous aller chez Anaïs.
Je vais te dire. Mais oui, tu peux venir chez moi et tu vas venir chez moi et chez Karima. Et je vais te dire pourquoi, comment ça se soigne. La première, une bonne connaissance de la partie psycho-émotionnelle, c'est-à-dire une bonne connaissance de la gestion du stress, premièrement. Deuxièmement, tu me parles du soigner au sens physiologique du terme, l'huile de Nigel, qui contient une activité thérapeutique, j'ai fait pas mal d'émissions ici, et il y a même un livre en préparation à ce sujet. L'huile de Nigel est un très bon antalgique. Il n'y a pas meilleur antalgique aujourd'hui pour la partie psoriasis.
Je vous jure qu'on fera une émission sur le
psoriasis. Mais on pourra en faire. Donc ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est qu'il y a des connaissances à avoir, des prérequis, avant de pouvoir se lancer vers
toutes ces pathologies.
Voilà. Ah non, avant de s'orienter vers une discipline complexe, qui est justement Ar-Ruqya. Ar-Ruqya, on ne l'a pas défini. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Ruqya en arabe? C'est-à-dire s'élever. Quelqu'un qui s'élève. Donc là, aujourd'hui, quand on va justement voir Ar-Ruqya, c'est pour quoi faire? C'est quoi? Occultisme, ésotérisme, spiritualité. Donc on est dans cette démarche qui amène l'être humain aujourd'hui à vouloir aller chercher quelqu'un pour s'élever spirituellement.
Alors, Islam Ibn Ahmed.
C'est triste aujourd'hui qu'en 2018, on se retrouve face encore à cette fameuse Ruqya et l'Iraqi, etc. Il y a un problème fondamental. Ce que disait déjà le frère, et je confirme, en fait, comment aujourd'hui quelqu'un qui n'a pratiquement aucune formation, je ne parle pas bien sûr du frère, je parle de manière générale, j'ai fréquenté toute ma vie l'Iraqi, comment quelqu'un qui n'a absolument aucune formation en la matière, c'est-à-dire médecine, etc., l'étude, comment il va pouvoir soigner quelqu'un? Moi, j'ai étudié les sciences islamiques depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais entendu dans ma vie ou lu dans ma vie un écrit sur l'existence de ce qu'on appelle un ruqya ou un raqi, ou la profession de raqi, où il y a une méthode. Tout à l'heure, il parlait des maladies, des pathologies. Mais je ne vois aucun texte qui explique comment guérir ça. En fait, c'est l'imagination. Je connais tous les textes, ne vous inquiétez pas. Et on peut débattre même après, Inch'Allah. Il n'y a absolument aucun texte. Deuxième chose, le frère, il a utilisé le hadith sur le habba saouda. Mais en fait, c'est tout simplement un pur mensonge. Le prophète n'a jamais prononcé ça. En fait, c'est ce que dit Abu Huraira. Il a rapporté
rapporté ça d'après Ka'b al-Ahbar, et ça c'est connu.
On en parlera tout à l'heure aussi.
Mais je termine juste.
Oui, c'est bien ce que tu dis. Mais même ça, je vais aller dans ta démarche. C'est vrai, il ne l'a pas dit. Mais même mais si mais le scientifique, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait le scientifique? Il va à la rencontre de la plante.
Mais ne le
il va, aller, il va essayer de déterminer la racine, de la tige, de la capsule, de la graine mais et de ce contenu. Et pour essayer de voir est-ce que c'est une réalité ou une fiction. C'est ça qu'il faut faire. C'est toute la démarche scientifique qu'il faut, aller, qu'il faut mettre en place.
De dire une guérison
les patients qui sont paumés, qui vont. Oui, qui sont paumés, qui font un parcours.
Les personnes, même quand elles ne sont pas bien et qu'elles consultent, la première chose qu'elles demandent quand elles sont intéressées par la ruqya, ce n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas.
Oui.
Elles essayent de savoir quelle est la compétence de la personne, si c'est une personne qui a une bonne réputation ou pas.
Si vous permettez juste une seule phrase, oui. Désolé. Moi, je suis en tant qu'imam. Lorsque les gens viennent me poser des questions familiales, je ne réponds jamais. Question, on ne parle plus de ruqya, même une question de couple, je leur dis je ne suis pas qualifié. Je connais les textes, etc. Mais
c'est pas ma profession. Mais nous, c'est pareil.
Aujourd'hui, on utilise la religion pour manipuler les gens.
Mais nous, c'est pareil.
Au lieu de les orienter vers les personnes compétentes.
Non, mais nous, en tant que thérapeute, on ne va pas dire faites pas une thérapie, allez voir un rabbi. Mais quand les gens ont cette demande, il faut comprendre pourquoi il y a cette demande. C'est souvent un besoin de se rassurer.
Je voulais juste vous expliquer qu'aujourd'hui, les religieux utilisent la religion pour des raisons personnelles, pour qu'ils gardent leur statut. Ces maladies ont leur. Compétents, ou bien il y a des gens qui sont compétents qui trêvent, comme par exemple vous êtes dans votre domaine. Mais moi, en tant qu'imam, ou le frère en tant qu'aqi, n'a pas le droit de soigner ce qu'il ne connaît même pas.
Vous, ce que vous voulez dire, c'est que vous orientez.
Je ne réponds jamais aux questions familiales.
Alors, ce n'est pas mon domaine. Pas d'attaque personnelle, en tout cas.
Non, il n'y a pas d'attaque personnelle.
Ça s'applique sur moi.
Ce que fait aujourd'hui Raqi Sofiane, c'est très courageux, même si on n'est pas tous d'accord, mais on est d'accord en partie. Et on n'est peut-être pas forcément d'accord sur la totalité, mais sa fonction est une nécessité. Pourquoi ? Parce que c'est une demande. Oui, donc déjà, il faut étudier.
C'est ce que disait Fatma. Il y a une demande.
Mais oui, il y a une demande.
Ce n'est pas une demande.
Si.
C'est une utilisation malsaine de
l'islam.
Non, je ne parle pas de ça. Attendez, alors, on y va. Karima.
En fait, je voudrais donner l'exemple, tu te rappelles, du psychanalyste Jean-Charles Bétan. En fait, il y a une personne qui est venue le voir et lui dit, voilà, j'ai été ensorcelé par ma belle-mère. Lui, psychanalyste, ne croyant pas du tout en fait à ce genre de choses, et il lui a dit, écoute, ce que tu vas faire, c'est que la prochaine fois, tu vas venir à ma rencontre et tu vas m'expliquer précisément ce qui t'a été fait. Donc elle est revenue à la deuxième séance, elle lui a expliqué, voilà, elle m'a fait ça. D'accord, très bien, tu reviendras à la troisième séance. Et donc lui, il avait tout préparé, le canon, il avait préparé tous les trucs, etc. Il est venu, donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue, elle a mis le canon. Donc il a mis le canon, elle a mis le charbon de bois. Elle a mis le bohor. Oui, elle a mis le bohor. Et donc qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Apparemment, elle a pris mes cheveux. Ah, elle a pris tes cheveux. D'accord, elle a pris mes cheveux. Et qu'est-ce qu'ils avaient? Apparemment, oui, on m'a dit que si je me mettais dessus, mets-toi dessus, par-dessus le canon et le bohor. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'instant même, elle s'est sentie bien.
Mais oui.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Et donc, on voyait ces gens.
Non, c'est Karima.
Ah, c'est à moi. C'est vrai. Voilà.
Parce qu'elle s'est fait couper par Azaïs, bon, qu'il a fait élégamment, mais qu'il a quand même coupé. Donc, Karima, vas-y.
Désolé.
Ça, c'est une discipline. Comment ça s'appelle cette discipline? La technique de quoi? Non, là, je reviens, oui. La suggestion, mais c'est de l'ethnopsie. C'est de l'ethnopsychologie ou de l'ethnopsychiatrie. C'est-à-dire qu'on va partir des croyances de la personne pour aller défaire ce qui a été fait, ou en tout cas, pour rentrer dans le monde et dans la représentation de la personne. Tout simplement, si moi je suis persuadée que ma belle-mère, mon beau-frère, ma voisine, mon je sais pas qui, mon patron, je sais pas quoi, et que j'ai une espèce de paranoïa, d'accord ? Je vais croire que le monde entier est ligué contre moi. Donc c'est plus facile de dire, ben voilà, on m'a fait du mal, et on en reçoit des paranoïaques, et on en reçoit des personnalités complètement dissociées, schizophrènes. Est-ce que ça veut dire que Il faut faire. C'est un jeune qui est là, qui a possédé la personne. Alors que nous, en psychologie, moi, je suis d'obédience jungienne. Ça veut dire que Carl Gustav Jung, il a fait rentrer la spiritualité au sein de la psychologie, ce que n'existait pas avant Freud. D'accord ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que l'être humain, dans sa dimension spirituelle, a besoin, en fait, de recréer l'unité en lui. Et quand la personne vient voir un raqi pour l'élever, c'est pour recréer cette unité. Et quand il y a
la fonction de raqi, elle est là.
Oui, elle est là, la notion de raqi. Mais quand, par exemple, une personne qui vient, moi j'en reçois beaucoup, des personnes qui ont eu des enfances difficiles, compliquées, avec des blessures terribles, des traumatismes terribles, et qui me disent, oui, je sais, on va couper, mais je vais aller.
Non, on va continuer. On a gratté du temps sur l'imam.
Très bien.
Et l'imam, très gentiment, va vous donner plus de temps. Donc, alors, vous restez avec nous parce que c'est passionnant. Est-ce que vous voulez tous rester?
Oui.
Bon, ben voilà. Cher Islam, vous restez avec nous. Bien, d'accord. Ben, on se retrouve.
Je reste à la condition qu'il y ait des tomates.
C'est mal barré. Alors là, je veux dire, ce soir, on mange que du gras.
Allô, l'imam. 19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors là, maintenant, on est de l'autre côté de l'heure, il est 20h, l'imam Abdelali Mamoun nous a rejoint. Bonsoir, imam Abdelali.
Salam alaikum.
Je vais reprendre le contrôle des opérations.
Oh, je pense que tu l'as bien fait depuis tout à l'heure.
Non, je voulais reprendre le
contrôle. Je voulais même pas m'asseoir à table, je voulais vous laisser continuer pendant une heure encore afin que les auditeurs, parce que là, je crois que c'est flou dans la tête de ceux qui nous écoutent. On ne sait pas à quoi s'en tenir. Est-ce que Islam Ahmed, Ben Ahmed et Karima, qui eux ont une approche purement rationnelle de la question, est-ce que c'est eux qui ont raison et que finalement que c'est du charlatanisme, ou est-ce qu'au contraire, comme le
non,
dit,
c'est pas ce qu'a dit Karima,
c'est pas ce qu'a dit Karima. Imam, c'est pas ce que je dis, pas du charlatanisme. Je dis, il y a une confusion en fait de rôle. Et on est dans une confusion de niveau de conscience.
Voilà, Fatma, elle dit que en fait, il y a une demande aujourd'hui.
On est bien d'accord. Attends, lui, il dit clairement, pour qu'on mette les contradictions l'une contre l'autre. Il dit qu'effectivement, la sorcellerie, le mauvais œil et d'autres formes paranormales peuvent agir sur l'être humain.
Absolument.
Alors que toi, tu dis que rien que tout ça, ni la belle-mère, ni rien, tout ça, c'est paranoïa. Tu as évoqué la paranoïa alors que lui, il te parle de véritablement attaque visée, réelle. Donc il y a bien une contradiction entre les deux.
Raqi Sofiane a dit quoi? Il a dit que les personnes ont besoin d'être fortes psychiquement et une bonne stature psychologique. Une bonne charpente.
Non, mais la question qu'il te pose, c'est est-ce qu'il y a attaque réelle?
Il y a des attaques.
Est-ce que les gens sont victimes d'autres personnes qui leur font de la sorcellerie?
Bien sûr, mais bien sûr.
Bah, Cheikh Islam, il n'est pas d'accord.
Attendez,
il y a une question fondamentale avant.
Attendez, juste laissez-moi terminer, puisqu'on est en petit nombre, là, les femmes. Donc là.
Non, il y a pas de problème, Karima. Tu auras toute la parole que tu veux, comme tu veux.
Donc, simplement dire quoi? Que les personnes, quand psychiquement ça ne va pas, il y a une fragilité. Donc, il y a une brèche. Il y a une ouverture, donc les attaques sont beaucoup plus faciles. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on aurait tout un programme, tout un rituel de protection? Dans ce cas-là, il servira à rien. Oui. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne et le prophète Salam nous dit même d'aller, excusez-moi,
à vérifier l'authenticité, parce que Cheikh Islam, dès qu'on sort un hadith, daif maudou.
Oui, mais ça après c'est son avis à lui.
Non, mais ça c'est son avis à lui.
Donc c'est vrai que c'est compliqué. Alors Cheikh Islam, est-ce qu'il existe un rituel prophétique qu'on fait nous-mêmes et qui est sahih dans la chaîne est rapporteuse et est authentique? Par exemple, celui qui, le soir avant de dormir, d'ouvrir les mains, de réciter la fatiha, de poussillonner et de s'essuyer le corps, c'est une ruqya.
Et de lire surat al-Baqarah aussi.
Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un problème. Après, j'aimerais bien poser une question au frère Youssef. Notre frère Sofiane. En fait, est-ce qu'il a eu un parcours, une formation reconnue en islam sur... Alors, ça n'existe pas, bien sûr. Mais moi, juste, je lui pose la question plus personnelle. En fait, car moi, en tant que, peut-être un simple musulman, mais quand même un peu spécialiste, si vous voulez, dans les textes, etc., le patrimoine, je n'ai jamais vu dans ma vie un chir qui a écrit sur cette question. Je parle à l'ancien du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au 3e, 4e siècle. Donc, c'est une question que je vais répondre à la question.
Je vous explique. Bon, sur les protections. Mohamed Lourati Raber est aussi un raqi. Vous parlez de Sofiane. Oui, voilà. Et donc, il a son mot à dire.
C'est pour répondre à ta question, justement.
Là, c'était occulte, là.
Parce que, à mon sens, il y a une petite incompréhension. C'est que, pour toi, tu dis que la ruqya, on doit prouver que c'est islamique. Mais pour moi, d'accord, c'est pour moi, je te dis, la ruqya, on n'a jamais dit que c'était quelque chose d'islamique. D'accord ? Attends, laisse-moi terminer. Avant l'arrivée du prophète, on est bien d'accord que les ruqya existaient. Ruqya, c'était soigner avec des paroles, comme tu as dit tout à l'heure pour les mots dedans. D'accord ? C'était
Juifs,
comme Shifa bint Abdullah, après l'authenticité du hadith, ça c'est ton rôle. Voilà, Shifa bint Abdullah, elle avait la particularité de soigner de la nemla, la plaie qui reste ouverte. D'accord ? Et elle récitait des paroles. Je ne vais pas
hadith
discuter.
Hadith rapporté par le Bukhari, mais affaibli par Cheikh Islam.
Non, pas par le Bukhari. Muslim, moi, c'est ce que j'avais. Mais après, ça, on n'est pas là pour ça. Donc, ça veut dire que la ruqya, et on sait qu'il y a différents types de ruqya. Il y a la ruqya jahiliya aussi. Donc, si c'est jahiliya, c'est-à-dire que c'était avant l'islam. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Donc, maintenant, la ruqya arrive. Pourquoi ? Parce qu'on dit que la ruqya, c'est soigner avec des paroles. Donc, pourquoi soigner avec d'autres paroles que les paroles d'Allah ? En tant que musulman, on a le Coran, on récite le Coran sur des personnes. S'il te plaît, mon frère, excuse-moi, je termine. Donc, on a les paroles d'Allah, ça adoucit le cœur de la personne, ça la réconforte, ça la rapproche d'Allah.
Voilà la définition.
Voilà. C'est-à-dire que la personne vient vers toi, elle est complètement dépassée, elle est déprimée, elle a été consultée différentes personnes, elle a été voir même des charlatans. Quand je pratique la ruqya, il y avait des personnes qui ont même fait des crédits pour pouvoir payer certaines personnes. Et je te rejoins sur le fait qu'effectivement, il y a des excès. Mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui vont essayer de venir en aide à ces personnes vont le faire de manière sournoise ou venir prendre l'argent des gens. Voilà, maintenant, quelqu'un qui vient vers toi, qui te dit « Ahri, je ne me sens pas bien, j'ai un problème de djinn, j'ai un problème de sahur, j'ai un problème de ça. »
Il faut l'orienter par exemple oui, dans le Coran ou la médecine.
Voilà, mais la ruqya, justement, c'est comment tu vas la définir, mon frère. C'est-à-dire que moi, par exemple, comment je la définis, c'est que mon frère, je le reçois, ou ma sœur, je la réconforte, je dis effectivement, Allah t'a éprouvé, Allah te donne des problèmes, Inch'Allah, on va essayer de trouver une solution. Moi, à mon niveau, la seule chose que je peux faire, c'est réciter le Coran, réciter la parole d'Allah. Peut-être
également.
Tu vas rentrer chez toi. Si tu ne fais pas la prière, Inch'Allah, tu vas faire la prière, tu vas te rapprocher de Dieu, tu vas faire des efforts. Si ça ne suffit pas, il y a d'autres personnes qui sont compétentes, il y a des médecins qui sont compétents, il y a des psychiatres qui sont compétents, il y a des psychologues qui sont compétents. Maintenant, après aussi, pour avoir voyagé beaucoup en Afrique, il faut aussi comprendre, parce qu'en France, on n'a pas vraiment conscience de la réalité du problème. Mais quand tu te déplaces en Afrique, quand tu vas dans des pays comme le Burkina Faso, ou le Togo, etc., ou le Mali, et que tu vois que c'est la société complète qui est touchée par ce fléau, par ce phénomène, que tu vois que dans les hôpitaux, il y a des personnes qui sont médecins, qui sont psychiatres, et qui ont aussi la compétence de Raqi ou de Ruqya ou comment on peut l'appeler, parce qu'on sait que c'est un problème qui est réel, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui, comme tout à l'heure on parlait avec le frère en Afrique, il y a des enlèvements de personnes, il y a des albinos qui disparaissent, ça existe. C'est-à-dire, après le fait aussi, je pense que c'est aussi dangereux de dire que ça n'existe pas, de dire que c'est du charlatanisme. Je pense aussi que ça peut pousser les gens à ne plus avoir confiance justement aux imams, etc., et de se diriger vers des personnes.
Surtout sur la dernière phrase, les imams n'ont pas besoin que les gens leur fassent confiance. Pour quelle raison? Car à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'avait pas des pseudo-raqis ou imams vers lesquels les gens se dirigeaient. On n'a aucun cas à l'époque du prophète.
Mais à l'époque du prophète,
ce que tu dis, c'est bien. Et ce qu'on te dit tout à l'heure, c'est qu'on parlait on parlait d'ethnomédecine. On a besoin de comprendre ce qui se passe dans la société pour pouvoir utiliser les différents acteurs et apaiser les gens. Regarde, là aujourd'hui, maintenant, on a eu la bonne définition de Ruqya et de Raqi. Ce qui sert à élever spirituellement la personne et lui permettre justement de rentrer chez elle et de pouvoir éventuellement faire la prière, de faire les ablutions, etc. C'est là où la définition de Ruqya, elle prend son sens.
Aujourd'hui, il y a les familles qui se déchirent, qui se divisent, il y a des problèmes, il y a des gens qui restent sans rien faire quand on leur dit c'est mort pour vous, que vous êtes possédé, vous avez quelque chose, on vous avait.
Nous, on est des experts. Cette émission.
Des fois même, il est possédé par 5 ou 6 jnouns, dont 5 sont juifs et 2 sont chrétiens.
Non, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, en tant qu'experts, tous, tous en tant que même Raqi Sofiane, en tant qu'expert sur ce plateau, nous sommes ici pour essayer de donner le maximum d'informations aux personnes qui nous écoutent, pour qu'ils puissent s'orienter correctement. Il y a une psychothérapeute, il y a un psychologue, il y a quelqu'un qui fait Ruqya, et lui, peut-être au terme de cette émission, il va comprendre aussi son rôle encore davantage pour aller encore davantage plus loin, etc. C'est important de pouvoir informer et former.
Alors, Fatma,
qu'on risque de terminer l'émission avec cette question de est-ce que c'est vrai ou faux.
Oui.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que le débat puisse avancer et qu'on puisse répondre à cette question plutôt de quand et comment faire la ruqya ou une psychothérapie.
Peut-être que Philippe va nous rappeler le titre de l'émission. C'est quoi le titre de l'émission, Philippe? Parce que je crois qu'on l'a tous perdu. On a tous perdu le titre.
Le titre de l'émission, c'est Possession ou pathologie entre réalité et illusion.
Entre réalité ou fiction.
Voilà.
Okay.
Okay. Et donc, juste, je réponds à l'intervention du frère. En fait, nous, souvent, on adopte un discours au final simplificateur, en fait, juste pour arranger les choses. En fait, il y a un problème aujourd'hui. Nous, on est dans le terrain
depuis de longues années. Il y a le cheikh ici avec nous qui peut confirmer. Il y a des problèmes aujourd'hui fondamentaux au sein des familles, chez les individus. Et comment on a résolu ces problèmes? À chaque fois en lisant le Coran. Donc aujourd'hui, vu qu'on parle en fait de le frère disait, alors il n'est pas islamique ou je ne sais pas. En fait, on utilise le Coran aujourd'hui. Si moi, j'ai rien qui justifie ça, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète, en fait, c'est ça ce qui est le problème. Je réponds à la question médecine prophétique. J'avais déjà fait une intervention, une conférence sur la médecine prophétique. Et on n'a pas le concept de médecine prophétique. La preuve, c'est que déjà le hijama dont parlait le frère, le prophète sallam l'a dit de sa propre langue, et j'ai déjà expliqué avec les textes en détail, qu'il a appris auprès des Arabes. Aïcha, son épouse, elle nous dit grâce aux Arabes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
juste une question chez l'islam. Le hadith qui dit aridu alayya ruqakum.
J'arrive, barakallahu.
L'authenticité, est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Barakallahu fi. Et donc je termine juste ma phrase, je réponds au hadith ça, à ce hadith là. Et donc si Aïcha, l'épouse du prophète, témoigne que le prophète a appris comme nous tous on peut apprendre auprès des gens associateurs avant l'islam, c'est quelques remèdes. Comment peut-on dire aujourd'hui remède prophétique et lui donner une dimension divine? Je termine. La deuxième chose, concernant le hadith. Ce hadith, il est rapporté par Muslim, d'après Muawiyah ibn Salih, d'après Abdurrahman ibn Joubert, d'après son père, d'après Auf ibn Malik, nous sommes venus voir Nabi Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. En fait, ce hadith-là, il l'a inventé Muawiyah ibn Salih lorsqu'il était en Espagne. En 142.
Donc c'est un hadith, rawahu Muslim, wa huwa mawdu'.
Je vous ai
en conclusion.
Allez pas trop vite parce qu'on a besoin de savoir. Ah,
c'est un hadith rapporté par Muslim et qui est faux.
C'est un hadith
rapporté par Muslim, faux. Non, mais que les auditeurs comprennent.
C'est un hadith qui est rapporté par Muslim et qui est inventé par Muawiyah ibn Salih, le juge chez les régimes Omayyad en Espagne, lorsqu'il était en Égypte, lorsqu'il a rencontré Abdullah ibn. Je vous donne même l'adresse où il était assis, l'année 154.
Est-ce que Muslim, il a précisé que c'est un hadith
Muslim? Non, dans le Sahih Muslim, il n'y a que du Sahih. C'est forcément authentifié. Non, mais attends, mais c'est pas que cette question-là. Cheikh Islam, lui aussi, qui est traditionniste, je le rappelle, pas simplement qui quelqu'un qui mémorise les hadiths, mais qui a fait un travail de fourmi quant à chaque maillon de la chaîne sur le temps et l'espace et le moment et la manière et les circonstances de ce qui a été rapporté, comment il a été rapporté, de manière à définir de manière sûre s'il est vrai ou il est faux. C'est tout, c'est ça la conclusion. C'est-à-dire, si est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et lui, effectivement, ce travail, il l'a fait, y compris dans le Sahih. Cheikh Islam, laisse-moi aller, n'arf bik, je n'ai pas de. Et lui, il a fait ce travail même dans les authentiques de Bukhari Muslim, et il en a conclu qu'énormément, et on va dire un nombre assez conséquent de hadiths qui sont dans le Bukhari et dans le Muslim, après avoir analysé leur chaîne, sont considérés comme inventés et faux. Est-ce que c'est bien ça, Cheikh Islam? Voilà. Il faut le dire. Non, mais dites-le, Naam ou.
Bien sûr.
Voilà, c'est
bien
ça.
Sûr. Et donc, on revient.
Ce que dit, je me pose juste une question que je pense beaucoup d'auditeurs se poseront. C'est que, est-ce que Bukhari et Muslim n'ont pas fait ce travail, justement, avant d'authentifier
leur hadith? Justement, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je viens de dire, si vous voulez, je vous explique leur méthodologie. En fait, ça fait plusieurs années que je suis en train d'enseigner la méthodologie.
Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est une réalité ou une fiction, le jeune? C'est vrai ou faux?
Il a créé des djinns.
Donc c'est une réalité ou une fiction, le fait d'être touché par le djinn ou pas?
Non. Que les djinns existent, ça, tout le monde, personne ne peut contester.
Est-ce que c'est une réalité? Voilà.
Mais est-ce qu'ils ont la capacité?
Allah Ta'ala, pas tous en même temps.
Allah Ta'ala, il dit, فَوَسْوَسَ لَهُ فَزَيَّنَ لَهُمْ. Donc, il y a le waswas, il y a le tazyin, le fait que le shaitan embellisse nos actes, nos les péchés.
Mais il y a un autre verset du Coran plus fort. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي.
Et c'est un verset voilà.
Je n'ai aucun pouvoir sur vous. Traduction. En parlant de Shaitan qui est un djinn, il faut le savoir. Il dit, Yom al-Qiyama, que je n'avais aucun pouvoir sur vous. Dieu ne m'a donné aucun pouvoir, ni de vous posséder, ni quoi que ce soit. Que seulement je vous ai invité à l'égarement et vous avez répondu favorablement.
Là, c'est dans le contexte de l'égarement, dans le contexte du péché. On est au Yom al-Qiyama, il y a les gens qui sont là,
mais
qui vont
dans l'Iblis. Il dans le Coran.
Il y a également le verset. Allah, il dit quand même le mot Majnoun. Le mot Majnoun, qu'est-ce qu'il veut dire?
Je pense
qu'il y a également le verset. Il y a également.
Excusez-moi, mais moi, j'avais fait une expérience une fois avec un raqi qui a vu plusieurs personnes qui avaient besoin de voir un raqi pour faire des ruqyas. Je lui ai dit, on va faire une expérience. Je vais faire un entretien psy avant que tu fasses la ruqya. Donc, on a vu 10 personnes pendant cette période-là. Sur les 10, il y a 7 personnes qui n'avaient pas eu besoin de ruqya après l'entretien. C'est pour ça que je pose la question de quand et comment.
il y a beaucoup de personnes qui ont des pathologies psychiatriques, qui ont des troubles psychologiques et
qui
passent
à côté et donc
qui
a besoin d'un professionnel.
Ils vont tout de suite aller voir un raqi. Pourquoi ? Parce que effectivement, l'être humain aime bien fonctionner par externalité, trouver des causes externes à ses maux. Et que ça évite la culpabilité.
Ou parce qu'on lui a dit.
Pas aussi parce que forcément, quand on a un problème, en tant que musulman, en tant que croyant, on va se diriger toujours, tout de suite, vers une solution, on va dire entre guillemets islamique.
Religieuse.
Donc c'est religieux.
Bah, c'est lié à la méconnaissance. Voilà. Justement, c'est lié à la méconnaissance.
Où là où nous on intervient aussi, c'est-à-dire que Sofiane il l'a dit tout à l'heure, c'est que on n'est pas dans un dans une vision où effectivement c'est soit la ruqya ou soit la psychologie.
C'est ce que je disais
tout
à
l'heure, je pense que si on pouvait s'il y a une conclusion qu'on pourrait en tirer, c'est que justement comment on va faire maintenant pour que entre psychologue, entre psychiatre et entre raqi, on puisse s'asseoir, on puisse justement définir justement les limites de chacun.
En fait, ce n'est pas une compétence pour s'asseoir avec un psychologue. Raqia, ce n'est pas une compétence, en fait.
Eh bien, on peut dire la même chose pour un imam, il ne peut pas s'asseoir avec un psychologue.
Cette question parce que
j'ai jamais dit que l'imam, il peut s'asseoir avec un psychologue.
Mais non, mais on peut dire ça avec tout le monde.
Le psychologue, il est spécialiste, il a fait quelqu'un qui a fait des études toute sa vie pour atteindre...
Et tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure, tu as dit l'expérience. Et je pense que les psychologues ont aussi besoin de personnes qui ont eu de l'expérience. Par exemple, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, l'expérience. Tu as dit que tu étais sur le terrain. Pour avoir été sur le terrain aussi, alhamdoulilah, Allah il m'a permis d'être beaucoup auprès des musulmans, que ce soit à travers l'aumônerie des hôpitaux, des prisonniers, que ce soit à travers les réconciliations de couple, etc. Et effectivement, tu as dit une chose importante. Mais à mon sens... La solution que tu apportes n'est pas forcément la bonne, avec tous mes respects. Hein.
Tu dis qu'il y a beaucoup d'expérience,
d'accord ? Et effectivement, cette expérience, elle doit nous être utile. Si tu dis que tu as l'expérience, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent te voir et qui te disent « Oui, voilà, je vais divorcer parce qu'un tel, il m'a fait sourd, un tel, ça, ça, ça. » Et est-ce que tu penses que la solution, c'est de dire « Ça, ça n'existe pas. Ah, ça, va voir. » Tu comprends ?
Maintenant,
justement,
c'est
comme ça qu'on comprend. C'est comme ça qu'on comprend.
J'essaie de le comprendre, de s'asseoir, mais je ne prétends pas être le guérisseur ou je ne sais pas.
Ça, mais si pour dans la tête des gens, il y a ça, il faut aussi
savoir. Juste pour la comparaison que le frère a fait, en fait, quand on dit, donc l'imam au final ne peut pas s'asseoir non plus pour me répondre ce que tu as dit, en fait, au moins l'imam, c'est une étude, c'est des études, en fait, c'est une spécialité. Mais quand on dit al-raqi, en fait, j'essaie d'expliquer à nos auditeurs en fait que Ruqya n'est pas une profession, c'est pas une étude, c'est pas une formation. En fait, c'est quelqu'un, qui vous dicte, il vous dicte des paroles coraniques, ça s'arrête là.
Oui,
et que psychologiquement, les gens...
La Ruqya a une...
Sofiane d'abord et après Fatma.
La ruqya a une relation avec la aqida. Parce que si les gens ne trouvent pas de solution islamique à leurs problèmes, ils vont aller chez les charlatans, chez les sorciers, qui vont leur faire des
crêpes,
des haroses, qui vont leur faire des carrés magiques.
Et c'est dans le meilleur
patients
cas.
Qui sont venus nous ça, voir, la plupart, la majorité des patients qui sont venus nous voir, ils ont fait la totalité. Toute la liste des médecins. La plupart sont déjà allés voir les médecins, les spécialistes, etc. S'ils ne sont pas allés les faire, c'est moi qui les invite à les faire, pour pouvoir faire la part entre le rationnel et le mystique. Et donc, si les gens ne trouvent pas de solution islamique à leurs problèmes, ils risquent d'aller chez les marabouts, etc.
Maintenant, on
considère que la ruqya n'est pas du domaine de religieux, mais du domaine du médical. La ruqya est ishtiyadia, elle n'est pas tawqifia. Elle n'est pas comme la prière ou comme le jeûne. Elle a été fixée par le prophète, alayhi salatu wasalam. On peut la faire comme ça et pas autrement. Le prophète, alayhi salatu wasalam, dans le hadith, que tu ne considères pas comme sahih, il dit il n'y a pas de mal à faire dans la ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk dans ce que vous faites. Donc voilà le cadre qu'a laissé le prophète alayhi salatu wasalam, qu'il nous laisse tout l'étendue des méthodes possibles tant qu'on ne rentre pas dans le shirk. C'est ça qu'on utilise. Et alhamdoulilah, on soulage beaucoup de patients. Je ne peux pas me permettre d'entendre que la ruqya ne sert à rien.
Alors, Fatma, vous avez la main.
Justement, par rapport à ce qu'il disait, le fait de s'asseoir ensemble.
Non, devant le micro.
Oui, sur le fait de s'asseoir ensemble et de discuter sur comment faire, comment aider les gens, je pense que c'est très intéressant et très pertinent parce qu'en fait, on s'adresse aux mêmes personnes. Mmh. Et c'est ça qui est important. Et
je voudrais, ajouter une question à Sofiane. Et tu vas voir que. Tu vas trouver ça
après
très intéressant.
Vous posez votre question Inch'Allah. Après la pub. Allez, on revient dans un instant.
Ramadan Co. Revient dans un instant. 19h, 20h, Ramadan Co. avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
J'ai l'impression d'être Michel Pollack ce soir, vous voyez. On est dimanche soir sur Beurre FM, il est 20h25, on a un plateau merveilleux. Alors, l'imam Abdelali Mahmoud, je vous laisse présenter tous les invités.
Alors, ben, on a Mohamed Rabia, qui est un ancien pratiquant de la Ruqya et qui a été membre de l'Istisal, donc là, cette association qui essaye de tirer le mal de la source. C'est pour ça qu'on dit l'Istisal. De la source, c'est-à-dire de tout ce qui est à l'origine paranormal. Et Soufiane, bien sûr, en fait partie ici à côté de moi. Bien, Azaïs est un naturopathe. Hein, on le présente plus. Hein, il fait partie des murs de Beurre FM maintenant. Fatma Mamouni, donc psychologue clinicienne. Karima aussi, pareil, qui est dans le domaine de la psychologie. Et puis Cheikh Islam Ben Ahmed Khitamouhou Misk. Et puis Tarak, on n'a pas parlé de Tarak qui est là, qui est là silencieux.
Non, mais Cheikh Islam, on dit que vous êtes traditionniste. Combien est-ce que vous connaissez de hadith à peu près?
Combien vous mémorisez de hadith
avec toutes les chaînes?
C'est un peu une question.
D'habitude, c'est vous qui a posé les questions. Alors, pour une fois, je peux vous en poser une.
Vous pouvez
les
dire, il n'y a aucune.
Non, mais pour que les auditeurs.
C'est autre chose.
Allez, j'ai de taqrib.
Moi, je n'ai pas compté, mais je mémorise par cœur. Tout le Muwatta de l'imam Malik, ainsi que l'authentique de l'Bukhari, et le Tayalisi, le sonat de l'imam Ibn Majah. Moi, d'après...
Ibn Majah, combien fait hadith? Combien de hadiths dans Ibn Majah?
Il y a une différence de version des hadiths, mais en général, je ne peux pas dire franchement, peut-être entre 15 et 20 000.
C'est pas mal. C'est trois fois le Coran.
Le Coran, je l'ai appris en 4 mois.
Mashallah.
C'était quoi votre méthode? Expliquez-nous, faites partager aux gens là.
Voilà, c'est peut-être un don d'Allah Ta'ala, c'est une grâce qu'Allah Ta'ala m'a accordé, que cette facilité de retenir et mémoriser les textes.
Alors, moi j'avais une question qui s'adresse au Ruqat, c'est-à-dire le pluriel de Raqi, parce qu'on parlait de Raqi, qui est la fonction de ceux qui pratiquent la Ruqya. Parfois, on entend des méthodes qui me semblent assez... discutable
et
qui me paraît
surprenante.
Très surprenante. Quand on me parle qu'une personne qui est diagnostiquée déjà par le Raqi comme étant possédée, et pas possédée par un gène ou deux, c'est des fois 5, 6, voire même des gènes féminins qui s'accaparent le corps de la personne pour dire que voilà, il est à moi, c'est mon mari, je vais me marier avec lui, et le matin il se réveille avec du hennal dans la main, c'est mon mari.
Les
hachiqat. Et le Raqi, après avoir diagnostiqué ça, il dit quoi? On va maintenant faire appel à un jinn musulman. On va interpeller un djinn, ils vont utiliser des versets du Coran, bien sûr,
hein,
qui va lui rentrer dans le corps du djinn de cet homme-là, en tant qu'énième djinn qui va entrer dans le corps, et va imposer aux autres djinns de se convertir à l'islam. Écoute bien. Voilà. Et après les avoir convertis à l'islam, ils vont tous ensemble quitter ce corps et le laisser tranquille. Et grâce à ça, il aura guéri de toute cette possession. Et ça, je l'ai entendu pas qu'une fois, et plein de fois. Cheikh Soufiane, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette question-là? Est-ce que c'est vrai?
Alors, ce n'est pas une méthode que j'utilise, et je ne suis pas d'accord avec cette description de cette méthode-là. Comment moi-même je pratique ma ruqya, c'est ça que je ne peux pas parler aujourd'hui.
Non, je voudrais te demander sur ce que je viens de te dire, est-ce que ça existe, oui ou non? Vous diagnostiquez parfois des gens possédés par plusieurs genoux? Est-ce que vous avez utilisé une fois dans votre vie, ou votre maître, qui est Abdelraouf Ben Halima, fondateur de l'Istisal, c'est bien ça, a utilisé à maintes reprises des genoux, qui est votre maître quand même, qui est votre référence, il a utilisé des genoux musulmans pour chasser et pour convertir d'abord des genoux juifs ou des genoux chrétiens ou des genoux athées, et ensuite pour finalement débarrasser le corps de cette victime de cette possession. Est-ce que oui ou non, ça existe, oui ou non?
Je sais ce que tu fais.
Tu nous l'as répété tout à l'heure, on sait ce que tu fais. On veut savoir ça, cette question-là.
Pas de souci. Tu veux faire référence peut-être au captage, ce qu'on appelle le captage?
Voilà, le captage, j'avais oublié le nom.
Voilà, exactement. Captage. Alors, ce n'est pas exactement comme tu le décris. Alors le captage, c'est faire appel à quelqu'un qui a été déjà possédé avant par le passé, c'est-à-dire quelqu'un, lorsqu'on lui récite le Coran sur elle, la personne elle se débat, les djinns parlent à travers sa bouche, les personnes crient, etc.
Des djinns qui travaillent.
Voilà.
Donc il est possédé.
Une fois que cette personne-là est guérie, avec uniquement la ruqya, avec uniquement les traitements, l'eau, l'huile, etc., les plantes que nous enseigne le prophète alayhi salatu wasalam, une fois que cette personne est guérie, c'est-à-dire que les djinns sont partis, la sorcellerie est détruite. Les djinns a créé dans le corps de cette personne-là des brèches, des portes d'entrée entre son corps et le monde des djinns, ce qui fait que les djinns pouvaient rentrer et sortir dans ce corps comme ils veulent.
C'est ça, vous le tenez d'où ça?
pardon.
هذا الشيء بأن يا دي برش.
Par l'expérience.
Ah, c'est il y a des mains fait le Kitab ou le Sunna. Il y a pas dans le Kitab ou le Sunna des brèches.
Comme j'ai dit, le on considère la ruqya comme ijtihadi, il y a pas tawqifia. Il y a pas besoin que ce soit, donc c'est pas légiféré, c'est du domaine du médical, pas du religieux.
Au nom de qui on dit médical ou pas médical, on dans ces réponses. Au nom de qui ou de quoi en fait.
À partir du moment où le prophète a dit la baisse des ruqya, il n'y a pas de mal à faire la ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk dans ce que vous faites.
Alors laissez-moi quand même
aller au bout de
mon explication.
Yahmouna Raddouka. Ou même tes conclusions, parce qu'il me semble que tu es pressé, tu dois partir. Donc on va le laisser terminer. Tu réponds, puis tu nous fais ta conclusion par rapport à tout ça, Inch'Allah.
Donc une fois que cette personne-là est guérie, comme j'ai dit, les brèches-là ne se ferment pas automatiquement. On s'est rendu compte avec l'expérience qu'on pouvait utiliser ces personnes-là, qui étaient malades avant, qui étaient possédées avant, qui aujourd'hui sont guéries. On peut les utiliser pour ramener dans leur corps les djinns des gens qui sont malades. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
On l'utilise comme une antenne.
Comment un être humain peut pouvoir domestiquer et dompter un djinn? Tu es en train de me dire que des êtres humains, ils peuvent dompter des djinns?
Non, c'est pas dompter.
Bah si, ils les utilisent à sa cause.
On utilise un verset du Coran. C'est uniquement avec le Coran et les doigts. On utilise un verset du Coran dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit « Aïnama takounou yatibikoum Allahu jami'an idallah ala kulli shay'in qadir » Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous et Allah est capable de toutes choses.
Donc, on récite ce verset du Coran. C'est comme le fouet qui fait venir le lion
On récite ce verset du Coran comme une dua. Allah nous dit « Adouan nifestajib lakoum » Donc on fait dua et Allah exauce. Et alhamdoulilah, les djinns du malade se retrouvent dans le corps du capteur. Donc la personne qui était possédée avant, qui aujourd'hui est guérie, les djinns se retrouvent dans ce corps à elle. Et donc, comme dans ce corps-là, il n'y a plus de sorcellerie, il n'y a plus rien que le djinn pourra utiliser pour se cacher, se protéger, etc., il va se prendre les versets du Coran de plein fouet. Donc à ce moment-là, ce sera beaucoup plus simple pour les convertir ou pour les tuer très facilement. Et une fois que les djinns sont convertis, éventuellement, on peut les interroger sur quel était leur travail avec le malade. Et ensuite, on renvoie à combattre. Les sorciers pour combattre les djinns contre les sorciers pour lesquels ils travaillaient, ou bien ils partent simplement étudier la religion, ils partent faire leur vie. Le capteur se réveille comme si de rien n'était. Alhamdulillah, on a vidé le malade de ces djinns. Maintenant, ce n'est pas une méthode que j'utilise, c'est une méthode qui est utilisée par le cheikh Ben Haïma.
Cette méthode-là, elle me fait penser, moi, en tant que psychothérapeute, à la technique qu'on utilise en constellation familiale de Bert Hellinger.
C'est ça.
C'est la même technique. C'est exactement la même technique, sauf qu'on va faire appel à quoi ? À des processus psychiques et à l'inconscient collectif. Par exemple, quand on a une problématique, j'arrive pas à m'entendre avec mon mari. Par exemple, je vous donne cet exemple-là pour que nos auditeurs puissent comprendre. Je n'arrive pas, il y a des blocages, il y a un problème, je ne sais pas ce qui se passe, la communication ne circule pas, j'arrive pas à exprimer mes besoins, il n'arrive pas à répondre à mes besoins, on ne s'entend pas, on est dos à dos. Que fait le praticien en constellation familiale? Il fait intervenir, en fait, parce qu'en nous, on part du présupposé que la personne porte en elle toutes les personnes qui interagissent dans cette relation. Ça veut dire, quand moi, je porte mon mari, quand moi, je porte mes enfants, quand moi, je porte mes parents...
Donc, il n'y a pas de genoune dans l'affaire.
Il n'y a pas de genoune, là. Juste pour dire ça. Maintenant... Je vais
donc
pas
il
n'y
a pas de jeune musulman qu'on va capter pour aller faire convertir le jeune.
Laissez-moi terminer
pour aller au bout de cette méthode et qui fonctionne. Moi, je la pratique en cabinet, même quand la personne est toute seule. Normalement, on fait appel à des intervenants extérieurs, donc des gens qui vont et au niveau énergétique, c'est-à-dire ils ont une signature énergétique qui ressemble, par exemple, à celle de mon mari, à celle de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère. Et on fait même intervenir les gens qui sont morts et on les fait parler. Pourquoi ? Parce que l'inconscient collectif s'est inscrit en nous. Génétiquement et spirituellement, c'est inscrit en nous. Donc forcément, après, si vous avez envie d'appeler ça le djinn qui vient de l'Est, le djinn qui vient de l'Ouest, le djinn qui vient du Nord, ou je ne sais pas d'où il vient, on n'est pas en train de... On va dire qu'on va utiliser une méthode, en fait. On va vouloir mettre un nom dessus, alors qu'en fait, c'est simplement...
Non, mais ils disent qu'ils sont capables de leur parler et de lui demander de quelle religion tu es. Et il répond, il dit, je suis un juif. Voilà, je suis un chrétien ou je suis un athée. Il répond, le jeune. Il n'y a pas de truc psychique, c'est réel. Les entités démoniaques.
Non, c'est ni démoniaque ni quoi que ce soit.
Oui, mais c'est ça ce qu'on a.
Je pense qu'il y a aussi une chose
qui dans le... Fatma Amini, et après, cher Islam.
Non, je pense qu'il y a aussi une chose qu'on oublie par rapport aux personnes qui ont accès à la ruqya, c'est le phénomène de dépersonnalisation qu'on retrouve en psychiatrie.
Donc, c'est-à-dire, expliquez.
Ben, c'est des personnes qui se sentent possédées, qui vont se dire possédées, mais c'est une entité en psychiatrie.
C'est-à-dire que la personne, elle est schizoïde. Son esprit est scindé en deux et elle a par moments des manifestations qui ne lui sont propres, qui ne lui sont pas propres, qu'elle ne reconnaît pas et qui, avec un traitement, on se rend compte qu'il y a une action. Voilà, exactement.
Là où même triple ou quadruple, hein, parce que cette je co-construis avec toi, Fatma, c'est que cette partie, elle a son identité propre, elle a son système de valeurs propre, elle a son système de croyances propre, et elle peut s'appeler, si c'est une femme, elle peut s'appeler Jean-Pierre, Bernadette.
Ce qui est interpellant dans ces cas-là, c'est que un traitement amène un changement de la situation.
Un traitement, donc
de chimique.
Chéri Stam.
Le frère, il m'a rappelé d'un sujet que je voulais évoquer aujourd'hui.
Et vous commencez pas un sujet et vous partez après. Non. Si vous ouvrez un sujet, vous restez avec. Hein.
Non, en fait,
c'est votre conclusion. Parce que moi, j'ai envie d'être de son côté cette fois-ci. Voilà, expliquer que c'est quelque chose d'important.
Il n'y a pas de souci. On est là pour écouter les différents avis. Il y a un problème qu'il a évoqué. En fait, il est très grave. Bismillah. Le fait de tuer le djinn, ce qu'on appelle tuer le djinn. En fait, je parle du principe. En fait, c'est très grave. C'est comme si aujourd'hui, en fait, on est assis avec les membres de Daesh en train de parler. Je ne parle pas du frère. En fait, c'est pratiqué chez les raqis. Ils disent, t'inquiète pas, je vais brûler le djinn. Je vais l'incendier avec le Coran. Et ils te rassurent. Et ça, c'est grave. Cet esprit malsain. Pour moi, c'est un crime. Même si, en fait, le djinn n'existe pas.
C'est un crime.
Et bah, barakallahu fi, comment aujourd'hui on prêche la miséricorde?
فقاتلهم يعني combat télé, tuez-les.
Allah Ta'ala, il ne parle pas des shaytans. Allah Ta'ala, il ne parle pas des combats ici des shaytans. Il parle des combats des êtres humains dans un contexte
déterminé. On combat les sorciers. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller un peu trop loin? Puisque à la base, est-ce que ça existe ou ça n'existe pas? Donc, s'il ne peut pas posséder le corps de la personne, le débat de le tuer.
Mais pour le raqi.
C'est rien.
Non, mais pour le raqi. C'est ce que j'ai dit. Mais pour le raqi, on suppose qu'il est. Mais pour le raqi, juste le principe de vouloir tuer un être vivant, une créature d'Allah Ta'ala, en fait, je trouve ça grave en tant que musulman. Et la deuxième chose, une chose je voulais l'aborder aussi en quelques mots, en fait, la question de prendre l'argent, de sucer les biens des musulmans. En fait, à quel droit on prend l'argent des musulmans? Le frère, il parlait tout à l'heure, on facture 50 euros. En fait, comment je peux donner 5? Je ne parle pas forcément, c'est rien de personnel. Moi, je parle, j'essaye de me mettre à la place de ces victimes aujourd'hui. En fait, de quel droit je prends ces 50 euros alors que tel ou tel médecin qui a fait 20 ans d'études, en fait, je ne vais même pas le voir, je vais donner 50 euros à quelqu'un qui prétend avoir une profession qui est inexistante.
C'est une thérapie globale avec
les gens. Tout en sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit strictement de prendre l'argent en vendant le Coran al-Karim. On a de nombreux cas à l'époque du prophète, des gens où ils ont enseigné, prenez le cas de Mu'adh ibn Jabal, de Ubay ibn Ka'b, de Abi Darda, de comment il s'appelle,
Abu Salam. C'est quoi le hadith qui interdit d'avoir une rétribution moyennant l'enseignement du Coran?
Prenez un exemple, le hadith d'Abi Salam ibn Abdurrahman, d'après son père Abdurrahman ibn Auf, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala la ta'koulou bil Qur'an, ne mangez pas par le Coran, c'est-à-dire n'utilisez pas.
Hadith rapporté par
l'imam al-Bayhaqi, par l'imam al-Bazzar, al-Musnad, etc.
Donc al-Bayhaqi wa al-Bazzar, les humains ma'tabarin bil da'f,
non,
sahih, ou muslim sahih, ou muslim da'if.
Non, c'est pour ça, il faut étudier le hadith. Non, il faut étudier le hadith séparément. Bukhari n'a jamais dit qu'il est
da'if. J'ai juste une petite question.
Après la pub, Mohamed. Vous avez la parole après une courte page de publicité.
Ramadan Co revient dans un instant. 19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Il y a beaucoup d'invités ce soir. Tout le monde lève le doigt. Alors, c'est vrai qu'Azaïs, on vous avait dit, Azaïs Kelsi, on vous avait dit que vous interviendrez après une courte page de publicité. Je vous laisse la parole, Azaïs.
Merci, Philippe. C'est toujours aussi intéressant ce genre de débat parce que chacun apporte quelque chose qui nous permet chacun en fait d'avancer et d'avoir en fait grâce à cet esprit critique de se remettre en cause et de se remettre en question et puis en même temps de confronter nos acquis. Donc si personne n'a dit des choses qui sont en fait aux antipodes de ce qu'il faut dire, en fait, c'est une nécessité d'entendre en fait les différents points de vue. Si vous le permettez, ça serait bien en fait qu'on recadre en fait le débat en essayant de partir du principe que Ar-Raqi est une nécessité, puisqu'il est là dans la société, on ne peut pas lui dire voilà, tu ne dois pas exister, il est là dans la société et on doit travailler avec lui. Peut-être en fait ce qu'il faudrait peut-être mettre en place, c'est comment travailler, collaborer
de façon harmonieuse afin que notre communauté puisse s'identifier et trouver les bons repères au moment où il a besoin de quelque chose. Donc, Raqi, il est là, le psychologue est présent, le psychothérapeute est là, l'imam il est là, le naturopathe il est présent puisque c'est aussi l'expert en alimentation et en phytothérapie. Donc chacun il a un rôle et comme le disait tout à l'heure à juste titre Fatima, on ne peut en fait faire fi de quelque chose qui existe puisque ça fait partie et intégrante de la santé et de l'approche de santé qu'on veut donner en fait à la personne qui veut retrouver un état d'équilibre psycho-émotionnel et peut-être même sociétal. Donc comment dans le débat qu'on a mis en place, maintenant les auditeurs ont compris, c'est une réalité, une fiction dans tous les cas de figure, et la fonction est présente. Comment peut-on travailler avec elle? Et aussi, comment aussi Ar-Raqi doit aussi peut-être se remettre un petit peu en cause, dans le sens, c'est pas péjoratif, comme nous, naturopathes, on s'est remis en cause. Comment elle doit en fait s'intégrer pour apprendre aussi ce qu'elle doit mettre en place, mais aussi connaître ses limites. De la même façon que nous, naturopathes, quand on travaille avec les médecins, on connaît aussi nos limites. Et de façon à ce que cette collaboration...
Et vous êtes complémentaires.
Et on est devenu complémentaires.
De plus en plus.
Voilà. Donc, bon. Si on peut... Dans une démarche intégrative, parce qu'on parle de beaucoup de mots, attention au terme diagnostic, je ne vais pas rentrer là, mais le terme diagnostic aussi, il est dangereux aussi à utiliser parce qu'il veut dire beaucoup de choses. Donc, comment fait-on maintenant pour travailler de façon harmonieuse tous ensemble? Voilà la question qu'on peut maintenant poser et avancer.
Alors, cher Islam.
Barakallah, avec moi, je dis juste quelques mots, je suis un peu pressé. En fait, je trouve intéressant ce que fait cette chaîne de radio, des sujets qu'elle sélectionne, qu'elle choisit. Ce sont des sujets que je pense très intéressants, qui aujourd'hui
sont un véritable service public.
Très pertinent. Barakallah, ouais. En fait, c'est ce que les gens en fait, attendent avec impatience, à chaque fois. Je voulais juste, en fait, faire une petite conclusion. En fait, moi, en tant qu'imam, je ne veux pas intervenir dans un domaine qui n'est pas le mien. En fait, mais en tant qu'imam, j'essaie juste d'expliquer à ceux qui nous écoutent que le Coran al-Karim a comme pour rôle guider les gens, apaiser les gens. Allah Ta'ala dit « Ala bi dhikrillah tatma'inna al-qulub ». Il nous dit Allah Ta'ala que le rappel d'Allah, c'est-à-dire le Coran al-Karim, apaise les cœurs. Apaise les cœurs. Allah Ta'ala dit « Bal huwa ayatun bayyinat fi suduri alladhina utu ». Al-ilm dit ce sont des preuves exposées dans la poitrine de ceux à qui nous avons donné la science. En fait, c'est ça le rôle du Coran. Et quand on parle de la guérison, en fait, le Coran al-Karim, juste pour résumer, il y a deux guérisons. Une guérison intellectuelle, le Coran nous a enseigné comment mieux réfléchir. Et la deuxième, c'est une guérison psychologique, spirituelle. On nous comment on peut être mieux et meilleur. En fait, c'est ça le domaine que je trouve. Donc, voilà. En fait, je trouve malheureux qu'aujourd'hui, on prive les gens au nom de Ruqya, de le Coran al-Karim et de son but et son objectif. C'est qu'aujourd'hui, même si on revient à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les gens venaient vers le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a aucun cas dans lequel le Nabi a récité sur les gens. Il a orienté les gens vers le Coran.
Voilà, moi, je te donne un exemple, cher Islam, un exemple.
Pour terminer,
personne m'appelle et me dit... Il m'a dit j'ai des problèmes, etc. Attends, laisse-moi terminer. Il dit voilà, j'ai des problèmes. Je lui dis bah, écoute, tu prends tes mains comme ça, tu l'ouvres, tu lis, récites la Fatiha. Je lui dis de même de faire ruqya à lui tout seul. Et de positionner dans les mains et de s'essuyer le corps. Attends. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit je n'y arrive pas. Au moment où je veux prononcer un verset du Coran, je ne peux pas. Même écouter le Coran, dès que j'écoute le Coran, je commence à trembler et avoir des sueurs froides et je commence à avoir la tête qui tourne. Rien que le fait d'écouter le Coran. Donc cette personne-là, elle dit avoir besoin d'aide parce que même pour utiliser le Coran, elle ne peut pas le faire elle-même. Elle a besoin du raqi. C'est ça.
Un exemple. Un jour, j'ai fait ruqya à quelqu'un.
En fait, il faut recadrer le débat. On a besoin du raqi. On part de ce postulat de départ.
On n'a pas besoin du raqi. Attends. Cheikh Islam, il dit on n'a pas besoin du raqi.
Donc, nous, on en a besoin. Moi, je veux travailler avec lui. La psychologue clinique veut travailler avec lui. La psychothérapeute veut travailler avec lui. Maintenant,
Non. La psychologue, elle dit aussi que c'est du n'importe quoi. Oui, il n'y a pas de jnoun. Attends. Il n'y a pas de jnoun. Il y a simplement une multitude de personnalités qui se. Comment t'as dit? Psychoïde.
Des personnalités.
Il n'y a pas de genoux, ni juif, ni chrétien.
On n'a jamais dit ça.
Mais moi, je veux mettre les choses à table.
C'est trop facile.
Vas-y. Est-ce qu'il y a des genoux ou pas? Qu'est-ce que tu penses, toi?
Bien sûr que les genoux existent.
Non, mais est-ce qu'ils possèdent les êtres humains?
Moi, je vais vous dire.
Réponds-moi, est-ce qu'ils possèdent les gens?
Je n'en sais rien, je ne suis pas habilité pour le dire. Je ne vais pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. D'accord, on parlait de charlatanisme. Je ne vais pas m'amuser à faire n'importe quoi, à jouer à l'apprenti sorcier. Pas du tout.
Il y a les maladies psychiatriques qui existent aussi. Tout n'est pas djinn et tout n'est pas possession.
Maintenant, moi, je...
La question, c'est de savoir comment on fait la part des choses.
Et une autre partie qui serait psychologique, c'est ça.
Je vais vous donner un exemple. J'ai un exemple que j'ai, on va dire, je reçois à peu près de femmes qui veulent enfanter, qui n'y arrivent pas. 90, sur les 90% de femmes que je reçois, je suis praticienne hypnothérapeute. D'accord ? Donc je pratique l'hypnose. Je vais travailler sur leur blocage. Ce n'est pas parce qu'il y a un djinn qui lui tient le ventre. Ou qui lui... Elle a été voir un raqi, il lui a dit écoutez, on a fait plein de choses, ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, elle est là la limite. Tant qu'on n'a pas été exploré le blocage personnel qui s'est construit tout au long de son histoire, de qu'est-ce qui fait qu'elle n'accède pas à la maternité ? Qu'est-ce qui fait que cet utérus ne fonctionne pas alors que les médecins lui disent « Tout va bien, vos ovaires fonctionnent, vous avez des cycles, tout se passe bien. On ne comprend pas pourquoi vous n'arrivez pas à enfanter. » Elle a été voir le raqi, et elle, je dis elle au pluriel, elles ont été voir le raqi. Je ne suis pas en train de dire que le raqi est inutile.
Moi, ce qui me perturbe... Je voudrais juste te dire ce qui me perturbe dans cette histoire.
On n'est pas dans une polémique argumentaire. On veut essayer d'expliquer en fait aux auditeurs.
Non, il y a une contradiction. Il y a que quand le malade il vient voir la psychologue, c'est forcément diagnostiqué comme étant un problème psychologique. Et quand elle vient voir le raqi, forcément, il diagnostique un problème paranormal de genoun, de mess, de serre, etc. C'est ça. Moi, personnellement, il y a des gens qui viennent me voir. Ils me disent, voilà, j'ai été possédé. Moi, je dis, avant d'être possédé, va voir un psychologue. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pathologie psychiatrique?
On a posé le cadre jusqu'à il y a quelques minutes. On a dit qu'il fallait.
Soyez disciplinés. Ces dames, elles lèvent la main. Bon.
Le psychologue, avant tout, il n'est pas dans une recherche de vérité.
Exactement.
Voilà, on n'est pas là pour dire est-ce que tu as un djinn ou est-ce que tu n'as pas un djinn. Quand j'ai des patients qui viennent me voir et qui vont me dire je me sens possédée, voilà, je vais dire d'abord bon. On va laisser ça de côté, la question. Quels sont vos symptômes ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Quelle est votre demande ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Et puis, je vais lui dire, on va faire une psychothérapie, puisque si elle vient me voir, c'est pour faire une psychothérapie. Donc, on va faire une psychothérapie. Donc,
à quoi bon une psychothérapie s'il est mascoun ? S'il est possédé par un djinn, à quoi elle sert ta psychothérapie ? Elle sert à rien. Puisqu'il est possédé, il a besoin d'un raqué pour enlever le djinn.
Attends, je vais changer.
Non, mais c'est juste pour comprendre.
Je suis dans une démarche exclusive. Et ce n'est pas notre cas.
Abdelali, je vais te répondre. Quand j'ai des patients, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le raqi, il est indispensable dans la mesure où il y a une demande de la part des patients. Et moi, je ne dirais pas aux patients, non, il n'y a pas de possession, et je ne lui dirais pas, non, n'allez pas voir un raqi. Je vais lui dire, moi, je vais m'occuper de la partie psy, et vous allez voir un raqi pour la partie ruqya.
Donc,
va
pour toi, il y a deux pathologies. Il y a une pathologie rationnelle et psychologique.
Abdelali, quand je
forcément, il y a les deux. Et si peut-être qu'il n'y en a qu'une des deux.
On est dans une démarche systémique.
C'est simplement que quand je reçois un patient, Abdelali, je ne suis pas en mesure de savoir ce qui est du domaine du surnaturel et ce qui est du domaine psychologique. On va avancer ensemble et on va mettre en place tout ce qui peut être thérapeutique. J'oriente vers l'ostéopathie, j'oriente parfois vers des traitements. Si la personne veut aller voir un raqi, je ne vais pas lui dire non. On travaille ensemble. On va avancer séance après séance. On va voir que la personne va évoluer comme ça. Donc, pourquoi est-ce que je vais me positionner de façon...
Et puis, tout le monde y trouve son compte. C'est le victime, c'est le mesquine qui paye.
Et puis, si je fais ça depuis 13 ans, c'est que ça fonctionne bien, Abdelali.
Non, je ne dis pas le contraire, mais ça m'énerve que forcément, quand ça va chez l'un... Non, c'est forcément la logique de l'un et pas de l'autre, et vice-versa. C'est ça qui me
perturbe. Abdelali, il y a Mohamed qui lui aussi est discipliné, contrairement à vous, qui lève la main pour parler. Donc, allez-y Mohamed.
Je voulais rebondir sur ce que la sœur a dit. Effectivement, nous aussi, on n'est pas dans un état d'esprit où on va dire c'est la ruqya, c'est pas autre chose. Effectivement, on pose toujours les questions de savoir si... Personnellement, quand je pratiquais, maintenant, quasiment plus, mais quand je pratiquais, je cherchais toujours à savoir si la personne qui était en face de moi, ce n'était pas une personne qui délirait, ce n'était pas une personne qui racontait n'importe quoi, etc. Mais par contre, pour le cas des femmes des grossesses, je veux dire, on peut le mettre des deux sens, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des résultats, mais moi, je vais vous raconter un résultat que j'ai eu aussi avec la ruqya. C'était une femme de 40 ans. Elle n'avait jamais eu d'enfant de toute sa vie. Et elle n'y croyait même plus, parce qu'elle avait fait tous les examens possibles qui étaient dans ses possibilités, et les médecins avaient dit vu votre âge et tout ça, à part un miracle de Dieu, voilà. Elle était venue faire la ruqya à la maison, donc elle avait fait la ruqya, elle allait mieux parce qu'il y avait d'autres symptômes, mais il n'y avait pas eu d'enfant. 6 mois après, elle me rappelle pour me dire que ses cauchemars reviennent, etc., il y a d'autres symptômes qui étaient revenus. Donc elle est venue et entre-temps, il y avait une personne compétente qui était avec moi pour pouvoir lui faire la hijama, une sœur, qui lui a fait la hijama aussi aux ovaires, puisque quand il y a des problèmes d'enfantement, on préconise la hijama au niveau des ovaires. Et elle me rappelle un mois après pour me dire que, alhamdoulilah, elle est tombée enceinte. Mm-hmm. Et un an et demi après, elle m'a ramené sa petite fille, elle était très contente. Donc voilà, je veux dire que à la fois vous aussi, vous avez des cas, nous aussi, on a des cas.
On est dans la démarche purement psycho-émotionnelle. On est dans la vraie démarche.
Et des deux côtés, on a besoin de
l'autre. Moi, je vais juste regarder quelque chose qui va nous réconcilier. Oui. Parce que dans la démarche...
Je ne suis pas en conflit.
Non, mais moi non plus. Non, parce que l'imam veut qu'on soit en conflit. Juste pour dire que dans la démarche... Attends, cher. On est dans la démarche psycho... La démarche psycho-émotionnelle, ça, je vais y arriver, elle permet quoi? Elle a un tremplin pour la démarche spirituelle. Si j'arrive à me comprendre psychiquement et émotionnellement, c'est l'ouverture vers cette proximité à Dieu et de me connaître. La spiritualité, c'est quoi? C'est la croissance de ton être, tout simplement. Et ces femmes, quand elles viennent et qu'elles me disent, voilà, j'ai fait ruqya, j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Moi, je ne lui dis pas que ça n'a pas fonctionné. Je lui dis que simplement, vous n'étiez pas encore prête pour ça. Parce qu'avant, au préalable, il y a besoin de faire un nettoyage. C'est quoi ce nettoyage? Un nettoyage énergétique. Un nettoyage aussi au niveau de son histoire, remettre les choses en place. Moi, je compare très souvent la ruqya. Je dis, quand vous faites la ruqya, c'est comme quand vous faites le grand ménage. Vous enlevez les tapis, vous levez les meubles, vous faites... Vous savez, moi, je suis marocaine, d'origine marocaine, et quand on dit le grand ménage, c'est tsiyar, c'est-à-dire si on n'y va pas avec le jet d'eau, d'accord? À grand dos. Ensuite, la psychothérapie vient remettre les meubles en place et vient remettre, en fait, de la déco pour que cette personne puisse savoir... D'où elle vient, ce qu'elle a traversé et à quoi est-ce qu'elle aspire, tout simplement. Donc moi, je ne suis pas dans une démarche exclusive, mais dans une démarche inclusive. J'inclus et je transcende. J'inclus et je dépasse. Et c'est en ça que c'est génial.
Allez, il va vous mettre tous d'accord. Dans un instant, on retrouve la chronique d'Ismaël Mounir, beauté et sagesse de la voix prophétique.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 19h à 20h sur Beurre FM.